Allô les amis, je suis en train de regarder les dernières infos, notamment sur l'interdiction des réseaux sociaux. Oh, je spoil les titres. Viens-moi ce sommaire. L'interdiction des réseaux sociaux moins de 15 ans qui devait être votée par le Sénat. Et je voulais voir dans quelle version avait été votée, parce qu'il y a beaucoup de débats sur le contenu de ce texte. Et les partisans de cette interdiction disaient: Ah ouais, mais alors si c'est cette version qui est votée par le Sénat, pas celle qui a été votée par les députés, en fait, ça n'a plus aucun intérêt, ça va être retoqué par l'Union européenne. Bref, c'est assez passionnant. Donc on va en parler ce soir, mais il faut surveiller cette actu. Cachez-moi ce sommaire que je ne saurais voir. Le Sénat a dit non. Putain, j'entends une petite vidéo qui doit être ouverte. Là, j'ai des sites ouverts. J'ai le Figaro et Mediapart sont ouverts. Voilà. Ah ouais? Le Sénat a voté contre. Hein. C'est encore plus gros, ça. Hein. Le Sénat, c'était aujourd'hui de vote. C'est vrai? Vous avez l'info? Je l'ai pas trouvé. Je l'ai pas trouvé tout de suite, mais peut-être, ouais. À l'oncle qui name drop encore Samuel Etienne en commission insupportable. Il ne peut rien pour attendre, lui. Ok. Donc alors, vous êtes sûr pour le... Vous êtes sûr pour les réseaux sociaux, là? Parce que moi, j'ai pas vu d'article là-dessus. En débat au Sénat, il y a 3 heures. Ok. Voilà, ça vient de tomber, alors. C'est fou, ces viewers qui sont mieux informés, quoi, que moi. Putain, le coup derrière la nuque, quoi. Ok. On va voir, ok. Je reprends les revues de presse demain matin. Eh non! Je suis encore en question pour un champion demain. Désolé. C'est le dernier jour. C'est le dernier jour. C'était 7 jours. C'est une grosse journée aujourd'hui. On a fait 7 émissions. 7 jours, 4 jours la semaine dernière, 3 semaines, 3 jours cette semaine, lundi, mardi, mercredi. Demain, question pour un champion. Demain soir, revue de presse. Parce qu'il était hors de question que je ne fasse pas la revue de presse malgré question pour un champion. Il fut un temps où quand il y avait question, il n'y avait pas de revue de presse, quoi. Et ça, on a arrêté. Donc, c'est le soir. Même s'il faut se lever tôt le matin pour lire les journaux, même si sur la pause du midi il faut continuer, même si dans le taxi de retour il faut mettre ça au point. C'est pour ça que je suis un petit peu en retard le soir. Mais on reprend jeudi matin. Jeudi matin. Voilà. Ouais, les 7 émissions sont bien passées, ouais. C'est pas souvent qu'on fait 7 émissions, mais il y a eu un souci sur le premier jour de la semaine dernière. Technique qui a fait qu'on n'a fait que 5 émissions et voilà, on a rattrapé aujourd'hui. Et après, on est tranquille normalement jusqu'en septembre. Voilà. Donc là, on reprend notre vitesse de croisière. Ça veut dire que avril, mai, juin, dans la série Rends l'argent, suite à des propos de Charles à l'oncle sur Nagui, du même style que sur toi, il a été harcelé sur les réseaux sociaux et a donc déposé plainte contre X, me dis-tu. Ok. Et donc, avril, mai, juin, revue de presse tous les jours. Juillet, revue de presse tous les jours, tous les matins. Août. Revue de presse tous les matins. On va pas s'arrêter. Non, ça, on emportera le setup en Corse, comme d'habitude. Septembre. Ah oui, bah septembre, éventuellement, ça reprend question pour un champion un petit peu. Voilà. Merci Bastiti. T'as vu, je prononce bien maintenant. Hein. Merci beaucoup pour le raid. Merci Moulubit pour l'abonnement offert à Cassie. Ouf. C'est gentil. Salut Astro Boy. Donc oui, on a pas mal de choses. On a pas mal de choses, il y a un peu tant que c'est pas pendant le The Event. Ah bah non, 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 de toute façon, non, 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 s'il faut choisir entre des tournages de télé et le The Event, à supposer que je sois réinvité, hein, ce serait vraiment extraordinaire. Il n'y a pas 1000 places au The Event, faut faire tourner. Hein. Si Zera veut faire tourner un petit peu, c'est pas moi qui critiquerai cette décision. Hein. C'est déjà inouï d'avoir été invité 2 fois de suite au The Event. Alors si c'est. S'il y a une troisième fois, ce sera avec grand plaisir, bien sûr. Mais voilà, moi j'ai toujours mis à l'aise Zera avec ça. C'est une chance inouïe de participer à cet événement. C'est incroyable. Mais oui, si j'ai la chance d'être invité, évidemment, ça, c'est une invitation qui ne se refuse pas, quoi. Quand un oncle t'a mentionné, merci beaucoup, c'est parce qu'ils ont demandé à France Télévisions. Et qu'ils attendent encore de leur part qu'ils transmettent le montant des indemnités de rupture conventionnelle, de ce que j'ai bien compris. Ouais, c'est ce que je leur ai demandé de faire. C'est bien, ils obéissent. Ouais, je leur ai demandé, je leur ai donné le chiffre. Le chiffre, ils l'ont. Et oui. Et du coup, ils sont bien embêtés. Enfin, un certain monsieur est bien embêté parce que c'est pas le chiffre sur lequel il a fait son beurre, monsieur, sur les réseaux sociaux. Donc effectivement, je pense qu'il est bien embêté, sans doute pour ça qu'il a demandé les documents. Et quand il verra les documents et qu'il verra le chiffre, eh bien, j'espère que ces excuses publiques que j'ai demandées en mail se produiront. Voilà. Et sinon, on verra. Mais à défaut du document, ils ont le chiffre déjà. Vas-tu réacter la commission avec Drucker et Sébastien? Ceux qui ont vu, je crois que Patrick Sébastien il est passé. Ceux qui ont vu les dernières auditions, est-ce que s'il y en a une que vous trouvez intéressante, je vais la réacter, ouais. Mais ce week-end. Là, d'ici là, je peux pas. Parce que vendredi matin, on a le gros live là. Attends, je vous remets le visuel là. Ouais. Ça, c'est quand? C'est le 3, c'est vendredi. Non, je dis pas de bêtises, hein. Donc ça se prépare. On va en reparler dans un instant. Donc, pas avant ce week-end, React. Sébastien et surtout Cardoz. Mais c'était intéressant ou pas? En vrille, celle de Patoche, Drucker et Cardoz, pas vraiment intéressant. Je l'ai pas trouvé incroyable, l'audition de Drucker et Sébastien. Et l'autre, c'est Cardoz. Ah ouais, donc c'est pas fou. Parce que, allez, un React, c'est 5 heures, 6 heures, quoi. Donc, on y va vraiment si vous avez trouvé ça intéressant. Ouais. Des revanchards qui lâchent des bombes sans vouloir rien dire. Ah, ça peut être marrant à analyser alors. Mais après, il faut que j'ai des biscuits, moi, parce que je suis pas spécialiste des sujets que Cardoz et Drucker, Sébastien ont eu avec France Télévisions, quoi. Tu envisages de react la seconde édition du Delphine AirNotes quand elle aura lieu? Oui, au dixième de seconde, ouais. On va la suivre avec beaucoup d'intérêt, cette audition. Ouais, carrément. Moins intéressant que celle de Bolloré? Ah, celle de Bolloré, c'était masterclass, hein. Ouais, vous n'êtes pas en train de me convaincre de la faire, hein. Ouais. Bon, après, cette semaine, il y en a plein des auditions. D'ici samedi, il y en a forcément une qui va sortir du lot par la qualité de son contenu ou par sa dinguerie. Et c'est celle-là qu'on fera ensemble. Hein. Faut qu'il y ait du content un petit peu. L'actu est assez anxiogène pour pas se faire plaisir, quoi. Nagui, ça se regarde, Nagui. La première et puis là, c'était cool. Ouais, mais on veut pas du cool, on veut du pertinent et ou de la bagarre, quoi. Voilà. Hein? Non, Michardou, c'est exceptionnel, c'est le soir parce que j'ai question pour un champion en ce moment, mais ça revient dès jeudi matin, tous les matins. Mais quand je peux pas le matin, c'est le soir. Nagui, ça va être intéressant. En plus, c'est quelqu'un qui se laisse pas faire, je pense. Je vous lis, hein, je suis en train de vous lire. Salut, Julo. Il porte plainte juste avant son passage, donc bon. Nagui, mais c'était pas une plainte qu'il avait déjà posée, il repose plainte. C'est ça? Octogone Nagui à l'oncle? Ah, vous êtes en train de me mettre l'eau à la bouche là. Là, c'est contre X. Alors, attends, le problème de X, c'est est-ce que c'est une plainte contre X, c'est-à-dire qui ne désigne pas la personne, et c'est une plainte contre X, ou c'est une plainte contre X, le réseau social, comme les dingueries, c'est là-bas. Je suppose que c'est une plainte contre X. X sans désigner, ouais, c'est ça. Ok. Comme maintenant, le lieu des dingueries, c'est le réseau social X. Je sais pas qui c'est Legendre. Tu as vu la dernière vidéo de Legendre qui parle des écoles à Paris? Je vois pas Legendre, je vois pas qui c'est. Enfin, ou alors, mets-moi un prénom. C'est Legendre de qui? Merci, le chiffre rêveur. Je vous lis, parce que de toute façon, les dernières infos, les bonnes infos, elles sont dans le chat. Ok. Oui, c'est le rapporteur qui a écrit le rapport et lui seul, ouais, tout à fait. Ouais. Ce sera très intéressant à lire, ce sera passionnant. Alors, n'oubliez pas. En attendant de partir sur l'actu, on va partir sur le sommaire là. C'est marrant parce que hier soir, quand j'ai lu les journaux, qui tombent à partir de 22-23 h, je trouvais pas ça fou. Et je pense que c'était parce que j'étais fatigué, parce qu'en les relisant ce midi, j'ai trouvé vraiment pas mal de sujets intéressants. Et la dernière édition du Monde qui est sortie en début d'après-midi était vraiment intéressante. Vraiment des articles très forts, très forts. C'est devenu encore plus étrange, X, maintenant qu'ils ont mis en place la trad automatique, les contenus de tout pays sont diffusés, y compris des contenus non soumis à loi française. Bon, c'était déjà n'importe quoi. Mais Barracuda, c'est une obsession. Ah, tu voulais dire légende. Tu avais écrit le gendre. Mais c'est toi qui produis la vidéo ou quoi? 20h41. Salut Samuel, tu as vu la dernière vidéo de Le Gendre qui parle des écoles à toi? 20h41. Tu as vu la dernière vidéo de Le Gendre qui parle des écoles à Paris? 20h41. Tu as vu la dernière vidéo de Le Gendre qui parle des écoles à Paris? 20h42. Salut Samuel, tu as vu la dernière vidéo de Le Gendre qui parle des écoles à Paris? 20h43. Tu as vu la dernière vidéo de Le Gendre qui parle des écoles à Paris? Et après, je dis, mais de quel gendre tu parles? Et tu écris 20h44. Tu as vu la dernière vidéo de Légende avec Guillaume qui parle des écoles à Paris? Alors, je ne regarde pas Légende. Maintenant que je sais de quoi tu parles. Alors, je manque un peu de temps, je ne regarde pas les gens, donc je n'ai pas vu celle-ci, je n'ai pas vu les autres non plus. Désolé. Et du coup, je ne l'ai pas vu. Je crois qu'on peut arrêter le harcèlement, je suis assez harcelé comme ça. Donc je ne l'ai pas vu du coup. Tu t'es vu dans Le Parisien? Ah oui, la petite pub. Oui, pour le festival, j'ai vu. Ouais. Je n'ai pas de gendre. Ben non, je n'ai pas de gendre. J'ai des garçons déjà. Quoi que je pourrais avoir des gendres, du coup. Mais ils sont tout petits. Ils peuvent pas être mariés. Merci Yoshi Forever. Merci Optolosa. Alors, avant d'aller plus loin, vendredi matin. Vendredi matin, là, vous venez. Hein. Vous venez, alors sur le stream, vous venez IRL. Parce que c'est à la cité. Quoi? C'est d'ici, je vous mets en gros là. Tadam! À la Cité des Sciences à Paris, à la Cité des Sciences et de l'Industrie, de son nom complet. Point d'exclamation, décryptage dans le chat, vous avez toutes les infos, c'est gratuit, vous pouvez venir me voir gratuitement, IRL, mesdames et messieurs, avec des tonnes de gentillesse. Hein. Et on a un stream en trois parties qui commence à 9h. Non, c'est pas Justin Bieber, c'est adorable. Mais c'est vrai que c'est, par contre, c'est moi qui lui ai appris tout ce qu'il sait en termes de danse. En termes de chorégraphie, Justin Bieber, il n'a rien inventé. Tous ses moves. À l'époque, on se fréquentait un peu. Tous ces mots, c'est moi qui lui ai appris. Donc, je reviens à notre histoire. 9h, vendredi, revue de presse. 1h, ça va charbonner. En direct de là-bas, okay, avec un joli setup. 10h, on a un jeu avec les gens sur place. Battle d'éloquence sur la question de l'esprit critique, puisque c'est le printemps de l'esprit critique, avec notamment le focus, le coup de projecteur sur les questions d'argent. Une petite battle, voilà. Ça va être rigolo, d'éloquence, et c'est moi l'arbitre. Et à donc 9, 10, 11, à 11h, on a une table ronde avec des spécialistes sur ces questions, hein, sur la désinformation, les fake news, comment s'informer, l'esprit critique, et notamment sur ces questions financières pour pas se faire notamment avoir, quoi. Voilà, c'est intéressant en vrai, hein. Le grand décryptage. Faut le dire comme ça par contre. Si vous venez. C'est quand même très provinciophobe, mais bon, passons. Oui, t'as raison, je pourrais le faire à Paris, et en même temps à Lyon, et à Marseille, et à Rennes, et à Toulouse, et dans tous les villages de France. Mais ça va être, je pense, en termes d'organisation, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ou alors, je loue des zéniths partout, et je mets des hologrammes. Mélenchon a fait ça, je crois. Voilà. Sinon, t'as un stream. Alors, c'est assez nouveau. Je comprends que tu puisses ne pas connaître. Alors c'est un truc, c'est diffusé sur Twitch. C'est comme la Switch, mais c'est plus sérieux. Et c'est en live et tu peux être n'importe où en France et dans le monde et tu peux regarder. Après, si c'est trop parisien pour toi, n'hésite pas. Ouais. Le petit Pio dormait dans mes bras tout à l'heure. C'était un kiff. C'était non, pas regarder un string, non. Le petit Pio, il est grand, il grandit, il a un mois. Il a un mois. Il est. Waouh. Hélène m'a montré des photos. Hélène prend des photos à 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, enfin bref. Et là, elle m'a montré des photos à un mois des trois enfants, des trois garçons. Ils se ressemblent. Ils se ressemblent. Mais en même temps, ils sont un petit peu différents. Je sais pas, il a l'air plus costaud, lui, le dernier, là. Et là, il dormait dans mes bras tout à l'heure. Il était trop apaisé. Tu as commencé à lui parler de ta formation, elle est trop jeune. Elle est trop jeune. Trois garçons, pauvre Hélène. Quatre, il y a moi aussi, ça fait quatre. Y a quatre, 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 quatre garçons. Quatre garçons. Et c'est peut-être pas fini, on sait pas, hein. Il a l'accent breton, il parle pas trop pour l'instant. Il commence à donner de la voix un petit peu au début, il avait toute petite voix quand il voulait manger. Ça commence à y aller là un peu là. Il a trouvé un peu la puissance là. Voilà. C'est que du bonheur. Après une journée de tournage, ça fait du bien quoi. C'était assez topissime. Donc, vendredi, le stream, voilà, ou IRL, vous venez, voilà. Et point d'exclamation décryptage, et on s'inscrit en deux clics, en deux coups de cuillère à peau, comme on disait à mon époque. Et un jour, il aura 19 ans, comme mon fils, je sais. Cray cray kangaroo, I know. Ouais, c'est pour ça que j'en profite, parce que ça va trop vite. Ils sont déjà malots, il est grand. Mais alors, ils y sont gentils, les trois, j'ai trop de chance. Ça grandit, mais c'est toujours aussi gentil. Là, c'est en plein poisson d'avril, là, ça met des poissons de partout. Il y a des poissons dans le dos de tout le monde à la maison. C'est trop mignon. Et il rit comme des baleines. Pas comme des poissons. Enfin, vous m'avez compris. Ça fête le. Et demain, festival de blagues. Malo, il a tout couché par écrit. Il a préparé tout. Demain, il n'y a pas école, c'est mercredi. Demain, il a préparé toutes ses blagues. Hélène m'a dit, il a tout écrit. Tout écrit, toutes les blagues. Il a fait un conducteur, il a fait un synopsis. Il a fait un conducteur synopsis du 1er avril. Toutes les blagues, tout est écrit. Parce qu'il est très comme ça. Ah, le kiff. Ah, je suis prêt là, je serai pas là, je serai question pour un champion. Voilà les trucs que je rate, quoi. Nul! Ça se trouve, c'est un futur humoriste. Un poisson liminaire ce soir? Non, bah non, rien. C'est une chaîne sérieuse ici. Ouais, tout le monde, de toute façon, je sais que certains d'entre vous supputent. Que la formation que je vais lancer dans quelques jours sur Valorant, puisque ça fait des mois que je travaille dessus et je lance donc une formation sur Valorant que j'ai annoncée hier. Vous avez peut-être vu ça sur les réseaux sociaux pour devenir super niveau en une formation de 12 heures. Je sais que certains supputent que ce pourrait être une blague de 1er avril, ce qui n'est pas très cool vu le taf qu'il y a eu derrière. Donc, non, il n'y a pas de vanne à venir, quoi. Ouais. C'est comme quand certains vont se retrouver convoqués au tribunal dans les prochaines semaines. Ce ne sera pas une vanne non plus, là. Y a peut-être une vanne qui va se faire pour te prank à ton retour. Ou ça, sur le live? Mais du coup, mais ce soir à minuit, alors? De mes enfants? Ah ouais, peut-être, ouais. Peut-être que ce soir en rentrant, il y aura. Quoi, un gros seau d'eau sur la porte? Un gros? J'imagine. Parce que j'ai dit, Aliane, je suis triste, demain, je vais pas vivre les blagues des enfants. Elle me dit, ah, mais t'inquiète, peut-être que ce soir, t'en auras et tout. Ouais. Et demain soir, je traînerai un peu à la maison pour. Je serai peut-être en retard pour le live, histoire de profiter des blagues un petit peu. Donc Sam se forme sur Valo, c'est lui qui forme les autres. Alors, je sais que vous doutez, parce que mon niveau est pas fou, mon niveau en pratique, il n'est pas fou, mais mon niveau théorique, mon game sense, alors j'ai du mal à l'appliquer parce que les réflexes sont émoussés, parce que l'audition n'est plus à son top, la vue, n'en parlons pas, bon, les réflexes, c'est une catastrophe, mais ça, c'est de la mécanique. Mais le game sense, moi, c'est ce que m'ont dit vraiment les pros sur Valo que j'ai rencontrés. Ils m'ont dit, quand tu nous expliques les choses, pas quand tu les fais, mais quand tu expliques les choses, tu as un game sense fou, quoi. Et c'est ça que je partage. Plus les conseils de pro, plus les conseils de coach, plus les conseils d'experts. Et on a fait une méthode en 12 heures. C'est vraiment, c'est garanti remboursé de toute façon. Bonjour, on t'aime, mais pas de blague. Hein, je veux me faire former sur Valorant, j'attends que ça. Mais ouais. Comme les professeurs de PS. Mais bien sûr. Mais Ragnarok, tu as raison. Comme les professeurs de PS. Ah voilà, Draco, merci. Toi, tu respectes. Les professeurs de PS, rappelez-vous les professeurs de PS. Les mecs qui te demandent de courir pendant des heures. Hein? Non, pas les profs de PS, de PS, enfin d'éducation physique et sportive, quoi. Pas les profs de socialisme. Hein, sur le bord du chemin, à dire, allez, trois tours de cours avec le petit bedou, là. Hein? Et alors? Alors, personne leur dit, ah ben, dis donc, et toi, tu fais. Non, ils connaissent, ils savent. C'est ça l'expertise, c'est ça. Eh oui, en fumant leur clope. Oui. Certains, oui. Donc c'est un peu ça finalement. On n'est pas. Vous verrez. Il y a un monde où ça devient mon activité principale. J'arrête l'info, j'arrête les streams, je deviens formateur, quoi. Il y a un marché. Merci Defecator. Salut Defecator, tu vas bien? Oui, mais c'est alors. Moi je suis que le streamer, hein. Mais ok, I put it in my mind. Ça veut rien dire ce que je viens de dire. Merci Aikishi. Philippe Lucas entraînait les plus grands sans jamais nager lui-même à haut niveau. Oh, il nageait peut-être, non? Cette vision rétrograde du prof de PS. Bah, des profs de PS que j'ai eus. Moi. Peut-être que ça a changé, mais. Ouais. Salut Sam, dans la dernière audition de Monsieur Allon, tu as dit qu'il n'avait pas reçu le montant de tes indemnités de ton licenciement. Lol. Et que certains ont reçu plus d'un million, un demi-million d'euros. Je crois qu'il commence à s'inquiéter, Monsieur Allon. Sur ce sujet. Ça sent le stress un peu son histoire là. Bon super. Bon vous venez vendredi, hein. Je compte sur vous, hein. C'est un pour les solutions décryptage. Voilà, j'ai eu les mêmes profs qui fumaient leur clope pendant qu'on faisait des tours de terrain. Eh ouais. Eh ouais. Ah. What? Dans mon collège, à la fin de l'année, il y avait un match handball All-Star élève versus prof de PS pour clore le débat. Et qui gagnait? Mais qui gagnait? Et qui gagnait? Ça, c'est génial. Les élèves ou les profs? Ça se trouve, c'est l'expertise, tu vois, c'est les profs. Qui gagnait? C'est les profs, je suis sûr. Souvent les profs au physique, ça dépend des années, tu vois, ce que je disais. C'est pour ça, c'est pas. Eh ouais. Mais moi, c'est le même principe avec ma formation sur Valo. C'est pas tellement une question de pratique, c'est une question de game sense. Vous voulez, on pose. Tout le monde a vu ma. Parce qu'on s'est quand même cassé le. On s'est décarcassé, hein. Tout le monde a vu mon. Tout le monde a vu ma vidéo, mon clip pour ma formation? Pour Valo, que je lance dans quelques jours là. Tout le monde l'a vu, je pense. C'est pas la. Oui, c'est bon. Pas la peine de la remettre. Vous me dites. Hein. Montre-la nous. De quoi? Ah, la vidéo. Non, mais je pense que tout le monde l'a vu. C'est bon. On veut revoir? 27. Tout le monde a vu ton pénis? Non, personne. En fait. Mais toi, tu t'informes sur X, toi, mon cochon. Espèce d'obsédé, va. Je rappelle. La prime, 10 000 euros. Le premier qui m'envoie la photo de mon zizi qu'il aurait vu sur internet, je lui donne 10 000 balles. Eh ouais! Dead or alive. La prime. Eh ouais. C'est marrant, j'ai pas envoyé beaucoup de chèques de 10 000 euros ces derniers jours. Y aurait pas un petit déficit d'information? C'est bizarre. J'ai pas assez d'espace de stockage pour envoyer ça? Oh, je te kiffe. Oh la régalade. Non, on n'a pas le droit à Photoshop. Non, je vous parle de vraie info. On est sur une chaîne sérieuse ici. Et c'est ta femme qui t'envoie la photo, tu fais quoi? Vous n'écoutez pas les phrases. C'est de l'information ici. Hein. Quiconque m'envoie la photo de mon zizi qu'il a vu sur Internet, 10 000 balles. Mon épouse ne voit pas mon zizi sur Internet. Vous n'écoutez pas. C'est la base de l'info, les gars. Faut écouter. Chaque mot est important. Eh ouais! Ha! Ah oui, on parle vraiment de ça. Bah, c'est un sujet important, en vrai. Salut, juste DJ. Bon, et si on partait sur la route presse? Est-ce que j'ai votre go pour qu'on parte un peu sur l'actu? Est-ce que ça veut... Merci mon MG. Est-ce que ça veut de l'actu? Est-ce que ça désire de l'information? Est-ce que ça se pâme pour des news ici? Le mec il pète un câble. Est-ce que c'est ça que tu veux? Waouh! Putain, quand je travaille trop, après je crois que quand je dors pas assez, je crois que je pète des câbles en fait. Voilà, ok, on y va. Calme-toi, calme-toi. Ça va bien se passer, Samuel. Ouais. Complètement con. Ok, let's go. Allez. Allez, on va dire un petit bonjour. Voici le sommaire. Il y a du matos. Il y a de la cam. Voilà. Et on va dire bonjour à nos amis qui nous écoutent en podcast audio. Parce que vous savez que en podcast audio, la revue de presse est en podcast audio tous les jours. Hein, sur Deezer, sur Spotify, sur Apple Podcast et Tutti Quanti, qui n'est pas une plateforme, ça veut dire le reste aussi. Eh ben, eux, ils n'ont pas le before, ils n'ont pas toutes les bêtises d'avant, ils sont sur le sérieux. Ça commence au sommaire, ça commence là maintenant. Ok? Le semaine, j'ai pu avoir accès en avant-première à la précommande de la formation Valorant. Je te remercie, franchement, ça se voit que c'est du travail, c'est très lourd. Je vous le disais. Ouais, j'ai sorti mon gros sommaire, ouais. Ce soir, c'est de la dinguerie. Je pourrais littéralement être tout nu derrière ce sommaire, vous verriez rien. Ouais. Allez, let's go. C'est un gros sommaire. Ici, on aime les gros sommaires. Bonsoir à tous les amis, bienvenue dans cette, non pas matinée Étienne, mais soirée Étienne, parce qu'en ce moment, mais c'est bientôt fini, eh bien en journée, je fais de la télé. Alors pour ceux qui sont sur Internet, qui écoutent sur Twitch, sur YouTube ou en podcast, la télé, c'est un truc, c'est comme un, comment dire, c'est comme un écran d'ordinateur, souvent c'est plus profond, et en fait, dedans, il y a des programmes à heure fixe, alors, moins en moins de gens à regarder. Et en vrai, c'est un peu comme Internet, mais avec moins d'interactivité, quoi. Je dirais pour résumer, quoi. Et donc en ce moment, je fais ça, je fais de la télé, et du coup, bah, en journée, je suis coincé, je peux pas faire la revue de presse le matin, je suis embêté. Mais car c'est une promesse, du coup, je fais la revue de presse le soir, ouais. En journée, à partir de 20h. Mais c'est exceptionnel. On fait ça encore demain, mercredi, demain soir, mercredi. Mais jeudi matin, retour de la matinée Étienne. Tous les matins minimum du lundi au vendredi. Bon, là c'est parti pour le sommaire de ce mardi soir. Qu'est-ce que je vous ai mis de côté dans l'actu? Regardez comme c'est beau. Je pense que chaque jour aujourd'hui, on doit se pencher sur ce qui se passe en Iran. Le conflit au Moyen-Orient, c'est obligé. Là, dans le monde, c'est la dernière une du monde. Vous le voyez, guerre en Iran, la crise pétrolière s'aggrave. Hein, c'est une vraie question. C'est en termes de conséquences sur le pétrole et sur nos économies, est-ce que ça s'aggrave? Est-ce que ça continue? Est-ce que c'est grave? Est-ce que l'économie réelle va être impactée? Je spoil, oui. Hein. Un mois après, un mois déjà, un mois après le déclenchement du conflit, la production d'or noir des pays du Golfe arabo-persique a chuté. Vous verrez les chiffres, c'est impressionnant. Les exportations se sont effondrées. Le rétablissement des flux de navires dans les l'étroit d'Ormuz et la remise en route des champs pétroliers et gaziers pourrait prendre des mois, à supposer que les perturbations s'arrêtent. Voilà. Conséquences sur le transport aérien. En France, le gouvernement a annoncé que le chômage partiel serait possible pour les entreprises qui font face à une baisse d'activité brutale. Voilà. Quand je vous dis, l'économie réelle va être impactée. La hausse des prix du carburant attendue le 1er avril en Outre-mer, laissant craindre une dégradation du climat social. Donc je vous ai mis le dossier. Regardez, regardez-moi ça. La baisse de la production ici avant la guerre, maintenant, ok, pour la région. Donc on se penchera sur ça. Ça, c'est pour le pétrole. Le commerce, bim, impacté aussi. Une du Figaro, la guerre d'Iran percute le commerce international. Bateaux bloqués, ports engorgés, pénurie, hausse de prix. Un mois après le début du conflit, la quasi-fermeture du détroit d'Ormuz provoque un choc logistique qui affecte toute la planète. Donc on va lire ça. La guerre en Iran percute le commerce mondial, nous dit le Figaro. Voilà, 2 pages. Dans Le Monde, dans la dernière édition du Monde, cet après-midi, ce papier. Israël vote la peine de mort pour les terroristes palestiniens. Pourquoi? Le Monde a mis le mot terroriste entre guillemets. Vous comprendrez quand vous lirez l'article. Et c'est vraiment important de se tenir au courant de cette actualité. Sachez juste pour résumer que la loi adoptée par 62 députés de la Knesset, le Parlement israélien, contre 48, affaiblit davantage encore l'état de droit en Israël. Il y a d'autres médias qui en parlent, hein. Il n'y a pas que Le Monde, mais l'article du Monde est extrêmement clair. Je voulais absolument vous en parler. Un peu de politique en France? Vous allez me dire, et vous aurez raison, mais Samuel, les sondages à un an d'une présidentielle, ça vaut rien. Et vous savez quoi? Vous avez raison, bien sûr. Mais en même temps, c'est intéressant de se pencher sur la vie politique de notre pays et de scénario, de ce qui pourrait se passer en 2027, peut-être pour se préparer, peut-être. Hein? Est-ce que la victoire du RN est inévitable? Et sinon, quel adversaire de quel parti pourrait empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir là? Un sondage qui nous dit que le candidat le mieux placé pour faire barrage au RN, ce serait Édouard Philippe. Édouard Philippe est-il trop haut, trop tôt? Il y a un papier intéressant qui le compare un petit peu à ce qui s'est passé pour Alain Juppé, qui était parti tôt, qui était monté très haut, et puis ça fait pchit. Voilà. Donc il y a cet article-là. Et puis un autre papier dans Le Figaro sur une partie du programme d'Édouard Philippe, parce qu'au-delà des individus, des hommes, des femmes, on va se pencher évidemment sur les programmes, et on a les propositions de monsieur Édouard Philippe sur l'immigration. Édouard Philippe qui assume un en même temps sur la question, le candidat d'Horizon concurrencé par Attal et Retailleau soutient l'immigration du travail mais veut limiter le regroupement familial. Je trouve ça intéressant de lire ça. Nous, évidemment, on va se pencher énormément sur la campagne pour 2027 ici, hein, d'ici à l'élection. Et on se penchera autant sur les stratégies, les chances des uns et des autres, les conséquences éventuellement de leur victoire, que sur le fond, que sur les programmes. Ce sera aussi une occasion de réfléchir à l'état de notre pays, la société que nous sommes aujourd'hui, celle que nous souhaitons. Voilà. Je pense que ça peut être super intéressant. Alors, c'est pas la première fois que je vous parle de ce débat sur l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Rappelons que c'est l'Australie qui a dégainé le premier, qui est devenu il y a quelques mois le premier pays au monde à interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Et ben ça fait tache d'encre. Je sais pas si on dit ça fait tache d'encre. Là vous avez un article dans le Figaro ici sur tous les pays qui enchaînent et la France qui devait adopter cette loi aujourd'hui avec un vote du Sénat, puisque l'Assemblée a déjà voté. On va aller voir tout à l'heure les dernières infos pour voir si ce vote est passé, et si oui, sur quelle version du texte. Parce qu'il y avait des vraies interrogations sur la version qui allait être votée par le Sénat et qui pouvait peut-être rendre finalement cette réforme pas très très intéressante. Oui, tache d'huile, pas tache d'encre. Faire tache d'huile, merci Mousseline la sérieuse. Tache d'huile. Oui, Cassie, on t'a offert un abonnement tout à l'heure. Je vais même te dire qui. C'est Moulbit qui t'a offert un abonnement, Cassie. Moulbit, tu peux remercier. C'est un vrai pseudo, hein, c'est un vrai pseudo. Merci Souris888. Voilà. Et donc on va se pencher sur justement une tribune d'une neurologue et neurophysiologiste et d'un psychiatre et chef du service de psychiatrie. Alors eux, clairement, ils disent ouais, il faut interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Et moi, comme je suis un gros réac. Un vieux machin, un vieux daron, aujourd'hui je suis assez d'accord avec ça. Et donc on lira cette tribune, on ira voir ce qui s'est passé au niveau du Sénat tout à l'heure, et on ira voir aussi ce qui se passe au niveau mondial, puisqu'il y a de plus en plus de pays qui sont en train de voter ce truc. Voilà. Merci beaucoup Valsnow pour les 5 abonnements offerts à la commu. Tu régales. Voilà. Donc on parlera de ça. Alors ça, c'est un sujet important aussi. La solitude croissante des étudiants. Je vais vite, hein, c'est le sommaire. Près de 4 jeunes sur 10 déclarent se sentir seuls. C'est énorme. Et ce ressenti tend à s'aggraver ces dernières années. Mais il se passe un truc. Il se passe un truc, quand on lit les études, quand on lit les spécialistes, les jeunes se sentent de plus en plus seuls. Voilà. Alors, compliqué de mettre un diagnostic, il y a des débats, il y a des échanges. Oui, le Covid a clairement accéléré tout ça, Sugar, t'as raison. En cause notamment la précarité, hein, les questions matérielles. La compétition entre élèves, l'usage des réseaux sociaux, voilà, on va se pencher sur tout ça. C'est un petit article, mais qui est plein d'infos. Je voulais absolument en parler avec vous ce soir. Regardez pas en haut, regardez en bas. Parce qu'en fait, on va traiter les deux articles de cette page, mais on commencera par celui du bas. Une étude sur les vrais revenus des livreurs à vélo. Parce que les plateformes, elles nous racontent des trucs. Je dis, ouais, c'est super, c'est la fête et tout. Et là, il y a eu une étude auprès de 1000 personnes, 1000 livreurs à Paris-Bordeaux. L'étude qui s'appelle Santé Course, voilà, sur les vrais salaires, ce qu'il reste vraiment à ces livreurs à vélo quand on enlève les charges et tout, notamment les frais. Et on arrive à 63 heures de travail semaine. 63 heures de travail semaine pour 1000 euros par mois. Voilà. Donc je pensais, comme c'est un pan de notre économie qui s'est beaucoup développé. Voilà. Le profil aussi des livreurs à vélo est intéressant. 99% des livreurs de repas à vélo sont des hommes. 99% sont nés à l'étranger. Les deux tiers sont sans titre de séjour. Voilà. Donc on va se pencher sur ça. Et puis après, on ira l'article du haut. Le Monde a commencé il y a quelques jours une série sur les gourous de l'intelligence artificielle, les gourous, les têtes pensantes, les responsables. Et c'est une manière de s'interroger en 9 épisodes, hein, c'est une enquête au long cours, sur qu'est-ce que l'IA, qu'est-ce que pourrait provoquer l'IA, pourquoi on est inquiet, pourquoi on est optimiste, qui est inquiet, qui est optimiste, est-ce qu'on va se faire bouffer, pas se faire bouffer, c'est un outil, est-ce qu'on va bien l'utiliser, vous connaissez ce débat. Donc on va se pencher cette fois avec le portrait du PDG de Google DeepMind, qui veut se servir de cette technologie pour intensifier les découvertes scientifiques. Est-ce qu'il n'est pas beau mon sommaire? Est-ce qu'il n'est pas riche? Il y a de l'actu ou bien? Tiens, je vous remets le sommaire là. Paf. Oui, 1000 euros par mois pour 63 heures semaine, ça fait pas rêver. Oui, c'était l'idée. Pourquoi il y a les gens qui trouvent que c'est beaucoup? Ah oui, c'est un gros sommaire, il est grand et complet. Là, je peux quasiment me mettre debout derrière, vous ne me voyez pas. On t'a déjà dit que tu avais un gros sommaire? Ouais. Plus d'une fois. Oui, c'est l'exploitation, bien sûr. On va se pencher là-dessus. Ouais. Un sujet à mettre en avant? Très bonne question, Camille. Je pense que je mettrai. J'essaie d'en mettre qu'un parce que je suis un peu gourmand. J'hésite entre Édouard Philippe seul à pouvoir battre le RN point interrogation et la solitude croissante des étudiants pour YouTube, pour nos amis de YouTube. On peut être impressionné par ce sommaire? Oui. Les étudiants? Les étudiants? Les étudiants? Ah, oh, ça vote les étudiants. Les étudiants? Les étudiants? La formation Valorant? Non, c'est pas une blague, Mac de Goat. Point d'exclamation, formation. T'as le clip. Étudiant, allez, c'est validé, c'est validé. Azmo Levray, cette info n'empêchera pas les citadins de se faire livrer ce soir leurs tacos par leurs esclaves. Ouais, mais peut-être qu'on peut demander aux entreprises qui font travailler ces gens de les payer dignement. Qu'est-ce que tu en penses? Et que du coup, peut-être que le prix de cette course se soit augmenté pour tous ceux qui en profitent. Les boîtes derrière et ceux qui sont livrés, tu vois? Ça permet de faire avancer un tout petit peu le débat. Il y a un petit point d'interrogation, mon Elimac, regarde. C'est un sondage, hein, sur Edouard Philippe. Hein. Ok, allez, vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts pour l'actu? Est-ce que vous voulez votre bonne grosse dose d'actu? Putain, je vais me lancer un petit troisième café là parce que la journée a été longue. Go, vous êtes les meilleurs. Ok, c'est parti. On me plonge dans l'actu, comme dit Sugar. Je sais pas pourquoi je prends cet accent et vraiment je m'en excuse. Ok, c'est parti. Premier sujet, donc la crise pétrolière qui s'aggrave. Alors quand vous écoutez Trump, tout va bien, je vais bien, vous inquiétez pas, ça va bien se passer, je vais bientôt gagner, j'ai pas trop de buts de guerre, d'objectifs de guerre, t'inquiète, ça va s'arranger, et puis je tape du poing sur la table et vous allez voir ce que vous allez voir, ultimatum, finalement je fais rien, je recule, et en fait vous le saviez pas, mais il y a des négociations secrètes, vous inquiétez pas, la guerre va s'arrêter. Bon, pour l'instant non, hein. Nous, on va se pencher juste sur les actus, il n'y a rien qui s'arrête, et d'où ce titre du Monde, guerre en Iran, la crise pétrolière s'aggrave, un mois après le déclenchement du conflit, la production de pétrole des pays du Golfe arabo-persique a chuté. Vous allez voir le graphique dans un instant. Les exportations se sont effondrées. Et du côté du détroit d'Ormuz, le rétablissement des flux de navires et la remise en route des champs pétroliers et gaziers de la région pourrait prendre, à supposer que le conflit s'arrête, des mois. Donc les conséquences sur l'économie, elles sont là. Alors, voici le graphique que je voulais vous montrer. La production de pétrole en milliers de barils par jour. Voilà. 1er mars, 26 mars. OK ? Bon, on dit parfois qu'un bon graphique dit plus qu'un long discours. Regarde-moi ça, quoi. Et lisons maintenant l'article. Les pays du Golfe extraient de 25 à 80% de barils en moins depuis le début du conflit. Une production en chute libre. Let's go. Des chiffres et des pertes plutôt qui se chiffrent en millions de barils de pétrole, en milliards de mètres cubes de gaz. C'est la conséquence la plus immédiate de cette guerre au Moyen-Orient. Plaque tournante mondiale de la production et du transport d'hydrocarbures. Manifestement, Trump ne s'est pas trop posé la question avant de déclencher cette guerre. Soit la plus grande menace pour la sécurité énergétique mondiale de toute l'histoire. Qui dit ça ? C'est l'Agence internationale de l'énergie. Un quart du commerce mondial de pétrole par voie maritime et un cinquième pour le GNL, le gaz naturel liquéfié, transite, vous le savez, on l'a assez dit depuis le début de cette crise, par le détroit d'Hormuz. Un mois après son déclenchement, parce que la guerre dure depuis un mois, ce conflit prive chaque jour les marchés de quelque 11 millions de barils de brut et de produits pétroliers, soit 10% de la consommation mondiale. Ces chiffres risquent de gonfler les monarchies pétrolières et gazières du Golfe réduisant leur production. Une exception, l'Iran. Alors, c'est assez paradoxal, qui continue à arriver à expédier son pétrole presque normalement. Waouh ! Les exportations ont chuté de 99% en mars. Le Golfe arabo-persique est l'un des cœurs énergétiques de la planète. Ça, vous le savez. J'ai l'impression de lire un cours, c'est drôle. Exportant la quasi-totalité de sa production via le détroit d'Hormuz. Or, seule une poignée de tankers pétroliers a franchi ce goulet maritime depuis l'ouverture des hostilités le 28 février. Les voies de contournement, parce qu'on pourrait se poser la question du contournement, se résument à deux pipelines en Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis, permettant de réacheminer une partie de cette production vers la mer Rouge et le golfe d'Oman. Malgré ces palliatifs, en un mois, les livraisons d'hydrocarbures de la région se sont effondrées en excluant les cargaisons donc iraniennes. On estime que les exportations à partir du Golfe ont chuté de 99% en mars par rapport à février. Faute de navires disponibles pour charger leur production, les pays pétroliers du Golfe s'inquiètent de voir leur site de stockage terrestre arriver à saturation. Qu'est-ce qu'ils font ? Du coup, ils réduisent leur production. Hein ? Par exemple, réduction de 85% en Arabie Saoudite, plus de 60% pour le Koweït, près de 80% en Irak. Donc, on décide de produire peu, mais on continue pour éviter un arrêt aux conséquences très dommageables, parce que certains puits de pétrole, une fois qu'ils sont fermés, deviennent difficiles à redémarrer, voire inutilisables. Il y a un vrai souci. On ne peut pas stocker indéfiniment le pétrole. Les capacités de stockage de ces pays, évidemment, sont limitées. Principale puissance pétrolière de la région, 40% de toute la production du Golfe, l'Arabie Saoudite est parvenue à limiter les dégâts, notamment grâce à un oléoduc terrestre débouchant sur la mer Rouge, par lequel elle a expédié des quantités records de pétrole en mars. Les volumes atteindraient jusqu'à 7 millions de barils par jour, selon Bloomberg. Il se trouve que l'Arabie Saoudite a aussi d'importantes capacités de stockage. Pour l'Irak, dit le papier, c'est beaucoup plus compliqué. Et alors, je vous disais, et c'est très paradoxal, a priori, l'Iran arrive à continuer à exporter, à produire, à exporter son pétrole presque normalement. Ah, salut, Fatale Tondeuse. C'est l'un des signes les plus concrets du contrôle que s'est arrogé l'Iran sur le détroit d'Hormuz. Tandis que l'offre des pays voisins s'est évaporée, l'activité pétrolière de la République islamique s'est maintenue presque à l'identique. Mais oui, l'IMAC, pour le coup, c'est eux qui maîtrisent le détroit d'Hormuz, t'as tout compris. Le pays a continué d'expédier près de 1,8 million de barils par jour de la fameuse île de Karg, autour de laquelle plane la menace d'une éventuelle intervention terrestre américaine. On en a parlé hier, mais c'est extrêmement dangereux, puisqu'à portée de drones et de missiles iraniens, donc ce serait, ça pourrait être sanglant pour les forces américaines. Donc volume moins élevé qu'en février, mais en ligne avec les moyennes des mois précédents. Si Téhéran menace d'une attaque de drones ou de missiles tout navire hostile cherchant à emprunter le détroit, ses propres pétroliers traversent le passage sans encombre pour aller livrer la Chine, La Chine qui est la principale cliente du pétrole iranien. Voilà. Donc après, il y a des focus que je vous lis pas sur le Qatar. Tout à l'heure, il y avait l'Irak, les Émirats arabes unis, etc. Et alors, les mauvaises nouvelles, volent en escadrille. Le retour à la normale s'annonce chaotique s'il a suffi de quelques jours pour paralyser le trafic des navires citernes, des raffineries, des usines de gaz de la région. Il pourrait falloir des mois, voire peut-être des années, avant de rétablir la production et les flux. Au Qatar, les autorités ont indiqué que les réparations du site de Ras Laffan, qui a été frappé, pourraient prendre de 3 à 5 ans. Plus de 40 infrastructures énergétiques réparties dans 9 pays de la région ont été gravement ou très gravement endommagées par la guerre. Chaud. Je vous lis. Sachant que je suis qu'un journaliste qui lit les articles, hein, je suis pas un spécialiste de géopolitique, mais paradoxalement, l'Iran engrange plus de pétrodollars avec la hausse des cours. Oui, parce que tu as raison, Rex. S'ils produisent autant qu'avant ou quasiment autant qu'avant et que le prix des cours monte. Effectivement, les caisses se remplissent. Après, il faut voir à quel prix ils vendent leur pétrole aux Chinois. Hein. Donc, il y a aussi cette question, quoi. Et pourquoi l'Iran nous considère-t-elle comme hostile? Nous, c'est qui, Estelle? Nous, les pays du Golfe? Quelle est la question? Nous ne sommes pas réellement aux côtés de Trump. L'Iran pourrait nous laisser circuler, peut-être. En fait, ça marche pas comme ça. Les frappes de l'Iran sur les pays de la région, pays du Golfe. Nous, l'Europe. Parce que là, on parle des pays du Golfe, là. Il n'y a pas de frappe contre des navires européens à ce jour. Donc je veux bien que tu précises ta question, mais du coup je la comprends pas. Il y a des de façon anecdotique, effectivement il y a eu des frappes contre des intérêts, mais c'est pas massif, européens ou occidentaux dans la région. Mais les principaux pays frappés, ce sont les pays du Golfe et leurs installations gazières et pétrolières. Et l'objectif, il est très clair, puisque c'est ta question. Pour l'instant, on n'a pas d'attaque massive, drone, missile contre les États européens, par exemple. Mais l'objectif des frappes contre les pays du Golfe, c'est très clair. C'est faire pression sur l'allié américain, que ces pays du Golfe fassent pression sur l'allié américain pour que cesse l'attaque israélo-américaine. Hein, avec des pays du Golfe qui iraient voir les États-Unis en disant, il faut arrêter maintenant, il faut arrêter les conneries, ça ne va plus du tout. L'Iran veut déstabiliser au maximum la région. Ouais. L'Iran ne peut pas gagner une guerre frontale contre les États-Unis et Israël. Par contre, pour dire les choses hyper basiquement, l'Iran peut mettre un tel boxon dans la région. C'est son arme à l'Iran, mettre un tel boxon dans la région, que à un moment, les belligérants se disent ça en vaut pas la peine, quoi. Trump, à un moment, il va avoir les conséquences économiques dans son pays en termes de tensions sur les prix, d'inflation, de hausse du prix à la pompe. Les Américains n'aiment pas trop quand le prix de l'essence augmente. On approche des élections. Voilà, c'est ça l'objectif de l'Iran. De tenir assez longtemps, pas de gagner ce conflit, de tenir assez longtemps en exerçant cette nuisance gigantesque, extrême, hein. Regarde les titres, hein. La crise pétrolière s'aggrave, là on va lire le Figaro, la guerre d'Iran percute le commerce international pour que bah, tous les pays impactés par ces crises économiques et pétrolières fassent pression sur les actuels belligérants, donc Israël et les États-Unis, pour qu'ils arrêtent. Ah, c'est ça la stratégie. D'ailleurs, lisons peut-être ce deuxième papier, voilà, dans le Figaro, donc sur... Au-delà du trafic de pétrole, sur le commerce international, les impacts Allons-y. Guerre en Iran, le commerce mondial percuté, article dans le Figaro. Bateaux bloqués, ports engorgés, pénurie, hausse de prix. Un mois après le début du conflit, la quasi-fermeture du détroit d'Ormuz provoque un choc logistique qui affecte toute la planète. Un mois après le déclenchement des hostilités, un mois déjà. Les conséquences économiques, ça se trouve dans 6 mois, dans 1 an, on y est encore. Hein. Rappelez-vous la guerre en Ukraine. Qui aurait dit qu'on en serait encore là, quoi. Les conséquences économiques de la guerre au Moyen-Orient se font de plus en plus sentir. Le blocage du détroit d'Ormuz, donc, impacte, on le dit, le transit du pétrole, du gaz mondial, mais aussi 30% des engrais, 5% du plastique mondial, 30% de l'hélium, quelqu'un en parlait dans le chat, indispensable pour les puces électroniques, par exemple, ou encore près de 20% de l'aluminium. Et ça pèse lourdement sur de nombreux secteurs industriels. Il perturbe aussi beaucoup la logistique du transport par bateau, de plus en plus cher et de plus en plus compliqué. Résultat, alors qu'on s'attendait en début d'année à une croissance mondiale on s'attend en ce début d'année à une croissance mondiale de seulement 1,9% pour 2026 contre 4,6% l'an dernier. Voilà. Donc on prévoyait 1,9% et l'OMC dit peut-être que ce ne sera que 1,4% en raison de la flambée des prix de l'énergie. Donc tout ça a des conséquences extrêmement concrètes. Alors on a, ça c'est juste le chapeau, puis vous avez l'article qu'on va lire ici, la guerre en Iran percute le commerce mondial, lisons-le, allons choper les principales infos, et le Figaro qui écrit, il aura fallu une guerre pour que l'on découvre tous les trésors qui passent effectivement par le détroit d'Ormuz, et c'est parti, 20% du pétrole et du gaz, 30% des engrais, 5% du plastique mondial, fabriqué en Arabie Saoudite, car c'est un sous-produit du pétrole, l'hélium. Je pense, non, le plastique plutôt. Sans oublier l'hélium, pardon, un composant indispensable. Je trouve ça bizarre cette phrase. Un composant indispensable pour les semi-conducteurs ou la réalisation des IRM médicaux. Bim. IRM médicaux. Dont le Qatar assure 30% de la production mondiale. Ou encore près de 20% de l'aluminium. Des trésors dont les prix ont bondi. Donc non seulement il y en a moins, mais évidemment les prix augmentent. Le baril de Brent tutoyait lundi les 115 dollars. On est à combien là? Hop. Vous vous souvenez, à un moment, ça avait passé les 100 dollars, après ça avait baissé, on avait dit « Ah, ben c'est rien, on s'inquiète pour rien. » Là, on était à 115 lundi. Et là, on est à... Le Brent, il est à 118. Et ça monte. Le baril de Brent, donc tutoyé lundi des 115, on est à 118 à l'heure où on parle, les cours du gaz européen ont augmenté de plus de 70% en un mois. Les innombrables matériaux qui proviennent en temps normal du golfe Persique profitent à toute la planète, en créant une dépendance inquiétante, car peu de régions peuvent s'en passer, ni l'Asie qui s'approvisionne beaucoup dans cette région, ni l'Europe qui achète du gaz en pagaille depuis l'invasion de l'Ukraine pour se passer du gaz russe, hein. Même si d'un pays à l'autre, la dépendance varie. Dans l'écrasante majorité, nous, Français, achetons peu ou pas ces produits dans cette zone, donc notre risque est très faible, nuance Laurent Martens, délégué général d'Armateurs de France. Donc nous, on ne serait pas trop concernés, nous les Français. La quasi-fermeture du détroit d'Ormuz transforme un choc géopolitique régional en choc logistique global. Voilà. Alors on est moins touché, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas touché, bien sûr. Exemple, un industriel agroalimentaire français qui avait chargé 140 conteneurs sur un bateau, direction Jeddah en Arabie Saoudite, quand la guerre a éclaté. Voilà. L'armateur a invoqué la clause de force majeure pour faire exploser le prix. Et en tout, il a été facturé à l'industriel 6 500 $ supplémentaires par conteneur. Voilà. Il y en a 140. Donc voilà. Et un coût de transport qui explose. Ça fait un tarif de transport qui double. Voilà. Rien d'illégal, mais la note est très salée. Et dans le transport maritime, qui réalise 80% des échanges mondiaux, elle n'est pas prête de se dégonfler. Le fuel lourd utilisé par les porte-conteneurs, qui valait entre 550 $ et 650 la tonne, a grimpé à plus de 1 000 $ depuis le début de la guerre. Voilà, donc l'augmentation des coûts de transport, ben ça impacte directement l'économie mondiale, vous l'avez bien compris. Et attendez, hop. Alors on pouvait espérer une autre route, que ce surcoût soit en partie effacé si l'accès au canal de Suez via le détroit de Bab al-Mandab redevenait praticable parce que c'est la route la plus courte entre l'Asie et l'Occident. Il n'y a pas si longtemps, vous aviez 12% du commerce mondial qui passait par là. Les houthistes, proxy, soutien de l'Iran, qui avaient bombardé régulièrement de fin 2022-2025 les bateaux qui passaient ici, ne faisaient plus parler d'eux. Et là, samedi, qu'est-ce qui s'est passé? Les rebelles yéménites, donc les houthis, ont envoyé des missiles et des drones sur l'État hébreu. Du coup, les porte-conteneurs vont continuer à contourner l'Afrique par le cap de Bonne-Espérance, ce qui fait 2 semaines de mer et des coûts supplémentaires. Quoi? Le prix du kiri, du babybel, la vache kiri vont augmenter? Voilà. Les entreprises qui ont une importante activité dans le Golfe sont soumises à rude épreuve. Le groupe Bel, la vache kiri, Babybel, Kiri Boursin, qui réalise 15% de ses ventes au Moyen-Orient, ne panique pas. Et dit, ça fait 70 ans que nous sommes au Moyen-Orient, donc des guerres, nous en avons connues et nous sommes toujours adaptés. Voilà. Non, c'est pas qu'une question de plastique, MG, c'est aussi parce qu'ils vendent beaucoup dans la région. Cette situation nous met sous tension d'un point de vue logistique, mais on s'adaptera une nouvelle fois. Le Kiri arrive d'Europe. Donc nous avons. C'est surréaliste de lire un truc sur le Kiri. Donc nous avons changé nos routes pour passer non plus par le détroit d'Ormuz, mais par la route. Bon, enfin, si vous êtes au Moyen-Orient et que vous inquiétez pour votre consommation de Kiri, a priori, ça devrait aller. Les marques de voitures de luxe jouent gros dans la région. C'est là que les véhicules sont vendus le plus cher. Ferrari, qui avait suspendu la livraison de ses modèles dans la région il y a une dizaine de jours, vient de reprendre ses opérations. Voilà. Du coup, les places boursières, elles cèdent du terrain partout. Les coûts se renchérissent pour les producteurs d'électricité, pour les industries intensives en énergie. Les prix flambent au-delà du secteur énergétique. Le cours de l'aluminium, donc, a bondi lundi au lendemain de l'attaque de deux fonderies géantes à Bahreïn, aux Émirats Arabes Unis. Air Liquide a fait part de tensions sur l'approvisionnement en hélium. Hein? Le prix de nombreux produits, des smartphones aux médicaments, est affecté. Les chaînes de valeur en aval, plastique, emballage, pharmacie, matériaux de construction commencent à subir des hausses de tarifs et des ruptures d'approvisionnement. Vous savez qu'en France, par exemple, les taux d'intérêt sont en train d'augmenter. Pour les gens qui veulent faire un emprunt immobilier pour acheter leur logement. Donc les taux d'intérêt sont en train de monter actuellement. Hein, c'est une conséquence directe de ce qui est en train de se passer là, au Moyen-Orient. Dans l'agriculture, le tarif des engrais grimpe alors que les semis sont en cours dans l'hémisphère nord. Les pays exportateurs du Golfe, Iran, Qatar, Émirats, Koweït, Bahreïn, voient leurs recettes s'assécher. Les grands importateurs asiatiques, Chine, Inde, Japon, Corée, qui dépendent du pétrole brut et du GNL, subissent, pardon, un choc d'approvisionnement. C'est fou en vrai. Certains gouvernements prennent des mesures choc pour économiser le pétrole. Le 8 mars, le Pakistan a ordonné la fermeture des écoles pendant 2 semaines. Hein. D'un conflit au Moyen-Orient à la fermeture des écoles au Pakistan, hein, pour économiser du pétrole, du carburant. Imposer la semaine de 4 jours dans la fonction publique. Le 24 mars, le Sri Lanka a ordonné l'extinction de tous les éclairages de rue. À partir de 21 h, un tanker de brut russe a été dérouté vers les Philippines, alors que le président Marcos Junior déclarait un état d'urgence énergétique nationale. Taïwan s'affole de n'avoir que 11 jours de réserve de GNL. L'autre route pour livrer Dubaï et Abu Dhabi en produits de grande consommation, faire le tour de l'Afrique par le cap de Bonne-Espérance, emprunter le canal de Suez, aller décharger la marchandise à Jeddah en Arabie Saoudite, là où les camions peuvent ensuite livrer ces deux métropoles à 2 000 km. Pas de doute, la crise d'Ormuz agit comme un révélateur de la dépendance structurelle du commerce mondial à quelques goulets d'étranglement maritime. Parce que tout à l'heure, ça vous a choqué, mais vous avez vu que Ferrari, ben, c'est pas grave, ils ont décidé de livrer leur voiture par avion. Avec le coût que vous imaginez, donc je suppose que pour Ferrari c'est possible, mais ça n'est pas possible bien sûr pour tous les produits. Parce que l'acheteur d'une Ferrari, il acceptera de payer le surcoût. Incroyable, hein? Rien de tel qu'une bonne crise pour révéler nos faiblesses. Non, Max de Gaulle, j'ai pas, c'est intéressant. Je vous lis un petit peu, et puis on enchaîne avec alors Israël. Dinguerie ce qui se passe là. Ah, Sugar me dit qu'il a un plan pour du Kiri pas cher. Par boîte de 12, passez en DM. S'il y a des accros au Kiri là. MMG, tu as vraiment fait la blague. La vache ne rit plus. J'adore. J'adore, j'adore. Les pauvres acheteurs de Ferrari qui subissent la crise de plein fouet. Non, ces fils bas qui s'en foutent, hein. Non, ça les dérange pas de payer. Ils ont les reins solides. Non, c'est qu'on les conséquences sur le reste de l'économie qui sont un peu inquiétants. Les gars qui sont en train de négocier leur emprunt immobilier pour acheter la maison de leur vie ou l'appart de leur vie et que la banque leur dit un petit peu plus cher finalement, Moyen-Orient, tout ça, rapport. C'est un peu plus embêtant quand même. Je suis étonné que l'on ne parle pas de nouveau choc pétrolier. Alors, très bonne question. Le choc pétrolier, il faut que ça dure dans le temps. Voilà, il faut que au moment, enfin, si ce choc pétrolier actuel dure, cette hausse des cours du pétrole dure, comme il a pu durer dans les chocs pétroliers précédents, on pourra parler de choc pétrolier. Tiens, regarde Moulbit. On a commencé un devis BTP en décembre, le devis en mars n'est plus le même. Eh oui! Qu'ils payent 2,3 ou 3,2 millions leur maison, je pense que ça leur fait absolument rien. Les gens qui achètent des maisons ou des appartements en France, ils mettent 2 à 3 millions. Waouh! C'est bien le petit raccourci façon Mario Kart là. Pas mal ça. T'as pris un champignon magique, comment ça se passe? Je parle des riches, Samuel. Oui, j'avais bien compris, ouais. Mais c'est quand même un raccourci. Assez impressionnant quand même. Tu parles de la caste? C'est la caste? Faut avoir la ref. C'était l'audition de Bolloré. La même. Ok, Vincent Bolloré est dans le chat, il s'appelle Seiko. On t'a reconnu. C'est bon. Tu peux prendre ton vrai nom. Bah, on va suivre ça, bien sûr. Hein, les conséquences de ce conflit sur l'économie, sur l'activité bientôt des entreprises françaises, sur peut-être l'emploi en France, etc. Quoi. Patrick Sébastien a aussi parlé de caste. Incroyable. Quelle surprise. Bon, je vous emmène en Israël. Et ça, là, on va prendre le temps parce que c'est assez incroyable, cette histoire. Audition de l'après-midi bien inutile, d'ailleurs, Sébastien Drucker-Cardoz. Ouais, bah, c'est un peu ce que tout le monde m'a dit, hein. Tout à l'heure, je me demandais au chat, alors pour ceux qui ont regardé les auditions devant la commission de l'Assemblée, de Patrick Sébastien, de Michel Drucker, de Cardoz, c'est Patrick Cardoz? Patrick Cardoz? Je dis de bêtises. Vous avez trouvé ça pas fou? Déjà, Bolloré, on n'a rien appris. C'était drôle parce qu'il les a un peu roulés dans la farine, mais. Apparemment. Jacques Cardoz. Donc là, pour l'instant, vous m'avez pas convaincu de faire un react. On verra ce week-end. On choisira la meilleure de cette semaine. Ok. Alors maintenant, je vous emmène en Israël. Le titre, vous l'avez sous les yeux. Israël vote la peine de mort pour les terroristes palestiniens et pourquoi des guillemets, vous allez comprendre en lisant l'article. Merci Topald. Merci beaucoup Magicbox 66. La loi adoptée par 62 députés de la Knesset, donc le Parlement israélien, contre 48 députés qui ont voté contre, affaiblit davantage l'état de droit en Israël. T'es toujours en podcast, Jojo le Panda, tous les jours. Correspondance de Luc Brunner pour Le Monde à Jérusalem. C'était une chance historique, selon l'expression du ministre de la Sécurité nationale israélien, qui est un ministre d'extrême droite, il s'appelle Itamar Ben-Gvir, de l'extrême droite religieuse israélienne, porteur depuis des années d'un discours et d'une politique ouvertement raciste. C'est devenu un moment historique, tristement historique, écrit Le Monde, pour l'État d'Israël avec l'adoption lundi, donc hier, du projet de loi instaurant, écoutez, la peine de mort pour les Palestiniens accusés de meurtres commis dans le cadre d'actions terroristes. C'est ce que dit le texte de loi. La loi adoptée donc par 62 députés contre 48 marque un tournant, estime le journal, dans la politique pénale et affaiblit un peu plus l'état de droit en Israël. La loi instaure la peine capitale pour les hommes et les femmes reconnus coupables de meurtres commis au nom du refus de l'existence d'Israël. Les Juifs n'y sont donc pas de fait, n'y sont donc de fait pas soumis, hein, notamment les colons qui se rendent coupables d'exactions et parfois de meurtres, vous le savez, contre les Palestiniens en Cisjordanie occupée. Donc, la peine capitale pour les Palestiniens qui sont reconnus coupables de meurtres commis au nom du refus de l'existence d'Israël, pas de peine de mort, peine capitale pour les colons israéliens, juifs, qui tuent des colons, des Palestiniens en Cisjordanie. La peine de mort ne serait prononcée que dans le cas d'un crime visant à anéantir l'État d'Israël, ce qui ne concernerait très probablement que des accusés palestiniens, souligne l'Association de défense des droits civiques en Israël. Le texte vise à imposer la peine de mort exclusivement aux Palestiniens, ce qui risque de créer un régime de peine capitale raciste, dénoncent plusieurs ONG. La loi distingue deux situations. En Israël, elle prévoit que quiconque cause intentionnellement la mort d'autrui avec l'intention de nier l'existence de l'État d'Israël, est passible de la peine de mort ou de la réclusion à perpétuité. Hein? En Cisjordanie, occupée par l'armée israélienne depuis 59 ans, où les colons commettent de plus en plus d'exactions sans que personne n'intervient, le texte dispose que tout résident qui cause intentionnellement la mort d'une personne dans le cadre d'un acte terroriste est passible de la peine de mort. La loi a donc été conçue pour laisser une marge de manœuvre minimale aux juges et aux avocats. La décision pourrait être adoptée par une majorité simple et non plus à l'unanimité de la cour. Le prisonnier condamné doit être exécuté par pendaison dans les 90 jours suivant la sentence, délai que le Premier ministre seul peut renouveler une fois. En Cisjordanie, les tribunaux militaires se chargeront des procès, les tribunaux militaires en Cisjordanie se chargeront des procès dont les conditions dénoncées depuis longtemps par les avocats et les ONG. Un second texte en cours de discussion prévoit l'instauration d'un tribunal spécial pouvant appliquer la peine de mort pour les Palestiniens de la bande de Gaza, suspectés d'avoir participé à l'attaque conduite par le Hamas le 7 octobre 2023. Les promoteurs de cette loi, hein, vous l'avez compris, c'est notamment le gouvernement d'extrême droite israélien, mettent en avant la lutte contre le terrorisme, dont la définition est très large en Israël, hein, d'où, et là maintenant vous comprenez pourquoi Le Monde a mis des guillemets à terroristes, c'est en référence à ce passage, hein. Les promoteurs de cette loi mettent en avant la lutte contre le terrorisme, dont la définition est très large en Israël, intégrant le nationalisme palestinien et le combat contre l'occupation, quelles que soient ses formes d'action. Cette peine aura un effet dissuasif et permettra d'empêcher que d'autres meurtres ne soient commis, précise l'exposé des motifs. Lors de la dernière réunion en commission, le 25 mars, le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, donc un ministre d'extrême droite, avait assuré que la loi sur la peine de mort pour les terroristes est la loi la plus importante, selon lui, que la Knesset ait adoptée ces dernières années. Avec l'aide de Dieu, déclare-t-il. Avec l'aide de Dieu, nous appliquons pleinement cette loi et nous tuerons nos ennemis, ça a le mérite d'être clair. Cette loi est typiquement juive et morale, avait observé un autre de ses promoteurs, encore un élu d'extrême droite, enfin, le député Limor Son Har Melech. Tout au long de la procédure parlementaire, les députés ont multiplié les discours de vengeance, justifient la loi en comparant les Palestiniens aux nazis. L'État d'Israël n'a appliqué la peine de mort qu'une seule fois, dans le cas du nazi Eichmann. Je vous le dis, chacun de ces terroristes est un Eichmann sans exception. Ils devraient tous être exécutés. Nous n'avons pas à contenir ces monstres, avait expliqué dès novembre 2023 le président de la Commission de la Sécurité nationale, Jadwiga Fogel, qui est un membre de l'extrême droite religieuse. Seule à l'époque, la gauche et une partie du centre s'étaient opposées au texte. Le contexte, depuis 1962 et l'exécution d'Adolf Eichmann, l'État hébreu n'avait plus appliqué la peine capitale dans le cadre de son système judiciaire, mais n'avait jamais cessé de procéder à des exécutions extrajudiciaires. La CRI a saisi la Cour suprême pour vérifier si cette loi est conforme aux lois fondamentales. Devant la Knesset, des juristes ont soulevé toute une série de difficultés juridiques majeures. Le problème est que cette loi n'autorise pas l'octroi d'une mesure de clémence à une personne condamnée à mort, ce qui est contraire aux conventions internationales. De plus, le texte met en évidence plusieurs différences entre la législation applicable aux citoyens israéliens et celle en vigueur en Judée-Samarie, c'est comme ça que les Israéliens appellent la Cisjordanie, ce que nous considérons comme une certaine difficulté, a averti le conseiller juridique de la Commission de la sécurité nationale. L'application de la peine de mort en raison de ses caractéristiques propres est extrêmement problématique. En général, il s'agit d'une peine que les pays réservent aux cas les plus exceptionnels et les plus graves. Nous ne connaissons aucun pays confronté au terrorisme à une telle échelle et présentant des caractéristiques similaires qui ait prévu une telle disposition dans sa législation civile, a souligné le conseiller juridique du ministère de la Justice. Le Conseil de l'Europe, Berlin, Londres, Paris, Rome ont dénoncé dimanche ce texte, susceptible de remettre en cause les engagements d'Israël en matière de principes démocratiques. Sur un tout autre ton, le département d'État américain a dit lundi après le vote, qu'est-ce qu'a dit Washington? Respecter le droit souverain d'Israël à fixer ses propres lois et sanctions à l'encontre des personnes reconnues coupables de terrorisme, il n'y a pas de surprise. Plusieurs associations et ONG internationales ont exprimé en revanche leur inquiétude. Ce projet de loi porte atteinte aux engagements pris par Israël dans les instances internationales ainsi qu'aux principes fondamentaux d'égalité devant la loi, en instaurant, vous l'avez compris, hein, un système intrinsèquement discriminatoire sur le plan racial, la peine de mort uniquement pour les accusés palestiniens, voilà, et par ailleurs en supprimant le pouvoir des juges. Israël atteint un nouveau niveau de bassesse dans la déshumanisation des Palestiniens. Il tue déjà des Palestiniens de manière systématique sans que personne ne lui demande de rendre des comptes. C'est ce qui se passe dans la bande de Gaza, c'est ce qui se passe aussi en Cisjordanie. C'est ce que fustige la directrice exécutive de B'Tselem, Yuli Novak. Parce que des ONG israéliennes, vous l'avez bien compris, dénoncent cette loi. En Cisjordanie, la loi vient accentuer le régime de terreur mis en œuvre par l'armée et la police, notamment depuis plus de 2 ans. En complément des arrestations massives, des détentions sans charge, le gouvernement a instauré une politique officielle de mauvais traitement en prison. Une politique officielle de mauvais traitement en prison. Depuis le 7 octobre 2023, près de 100 détenus sont morts au cours de leur détention. De nombreux témoignages concordants recueillis par les médias et les ONG montrent que l'usage de la torture en prison, y compris sexuelle, s'est généralisé. Le vote de la loi intervient également alors que l'armée a modifié les règles d'engagement en Cisjordanie, autorisant de facto ses soldats à tuer des Palestiniens dès qu'ils perçoivent une menace. Cela s'applique par exemple lorsque des jeunes jettent des pierres sur des soldats. Des dizaines de cas d'exécution dans de telles circonstances ont été mis en évidence depuis 2 ans, sans qu'aucune poursuite ne soit engagée. Au total, 1087 Palestiniens, dont 227 mineurs, ont été tués par l'armée ou les colons depuis le 7 octobre, en dehors de tout cadre judiciaire. La nouveauté, vous l'avez compris, c'est que désormais, la loi autorise la peine de mort pour ces Palestiniens. Je trouvais important de vous lire cet article. Je vous lis. Désolé de vous rapporter d'aussi mauvaises nouvelles. Ouais, il est dur celui-là, ouais. Alors, Il fut un temps, je vous disais, attendons les élections législatives générales en Israël, qui doivent se tenir normalement en 2026, parce que je crois que c'est ce qu'on disait en 2025, élections. En 2026, ouais, c'est ça. En 2026, voilà. Qu'est-ce qui peut changer les choses? Ben, un changement de majorité. Le problème, c'est que dans un cadre de conflit, et c'est ce qui semble se passer, on n'est pas dans la tête des Israéliens, mais dans un contexte de conflit, les rangs se resserrent. Et il n'est pas impossible que, même si puisque certains dans le chat disent oui, Netanyahou va reporter les élections. Netanyahou, il a peut-être intérêt que ces élections se tiennent, peut-être même de façon anticipée, puisqu'il peut provoquer des élections législatives anticipées. Parce que dans ce contexte de guerre, ce que disent certains sondages, c'est que les Israéliens font corps avec le conflit en Iran, font corps aujourd'hui autour de leur exécutif. Donc, contrairement à ce que certains pourraient penser, Netanyahou va empêcher les élections. Non, il a peut-être intérêt à ce que ces élections se tiennent. Au contraire. On verra ce qui va se passer dans les prochains mois, prochaines semaines, prochains mois. Merci Space Saturn. Sincèrement, je n'ose pas imaginer ce que vivent les Cisjordaniens, dit Elisabeth. Il y a une. Il y a combien de temps? Il y a 80, 99, 2000, il y a 20. Ouais, il y a une vingtaine d'années, moi je suis allé dans la région. Passé un peu de temps en Israël, dans les territoires, et j'avais pu rencontrer des Palestiniens qui vivaient. J'étais allé en Cisjordanie, je crois, et qui avaient témoigné de leur empêchement de vivre, le fait que chaque déplacement était compliqué, de pouvoir travailler, que pouvoir étudier. Et j'ai rencontré des Palestiniens qui me disaient, mais le seul espoir pour nous, c'est éventuellement de partir. Pour ceux qui voulaient partir, et c'était il y a 25 ans, quoi. Et c'est rien, évidemment, c'est rien par rapport à ce qu'ils vivent aujourd'hui. Et ça, je le dénonce, vous le dénoncez, on le dénonce, les grandes capitales occidentales le dénoncent, vous avez entendu les réactions tout à l'heure, mais le sort des Palestiniens, lui, ne change pas. Coucou Dame Sonia. Salut Jules 18. Je vous lis. Bon, on aura l'occasion d'en reparler. On n'en parle pas tous les jours, mais presque. S'il y a bien une région du monde dont ils font parler, et pas oublier, c'est notamment celle-ci. En tout cas, je voulais porter cette information à votre connaissance parce qu'elle me semble essentielle pour comprendre ce qu'est devenu Israël aujourd'hui avec ce pouvoir-là. C'est ces personnes à la tête du pays. Voilà. Comme il ne semble pas que la solution puisse venir de l'étranger, de l'allié américain par exemple, ou de la pression d'autres pays, on a l'impression que la solution ne peut venir que de l'intérieur d'Israël. C'est pour ça qu'à une époque, je parlais beaucoup des élections de 2026. Hein. Mais en l'état actuel de la situation politique en Israël, de qui dirige le pays, je ne vois pas d'espoir d'amélioration à moyen terme, quoi. Alors, en France, sans transition, la présidentielle. C'est tôt et c'est pas tôt. C'est tôt. C'est tôt pour se pencher sur des sondages, pour essayer de mesurer les chances des uns et des autres. Mais c'est pas trop tôt pour en parler parce que, mine de rien, ça va nous arriver dans la tête hyper vite. Voilà. Avec la question, c'est ben, en gros, quelle est l'affiche du deuxième tour? Parce que c'est comme ça, il y a un premier tour, il y a un deuxième tour, Et l'affiche du deuxième tour détermine le président, la présidente, pour 5 ans de notre pays, avec une éventuelle majorité parlementaire, ce qui n'est pas sûr. Ce serait très intéressant de voir un président ou une présidente élue en 2027 et avec des législatives derrière qui ne donneraient toujours pas de majorité à ce nouveau président ou à cette nouvelle présidente. Donc on se retrouverait dans la situation d'aujourd'hui avec un président impuissant. Hein. Donc ça, ce serait très intéressant. Mais bon, dans le régime de la Ve République, l'identité du président, je parle de masculin parce que pour l'instant, aucune femme n'a été élue, du président donnait jusqu'ici une idée assez claire de ce qu'allait se passer, quoi. Voilà. Mais, alors, ce serait très intéressant d'avoir une situation politique proche de celle-ci, par exemple, avec un président ou une présidente élue en 2027 et avec une absence de majorité parlementaire qui fait que ce chef de l'État-là ne ferait finalement pas grand-chose. Cette parenthèse refermée, penchons-nous quand même, et on va le faire de plus en plus à mesure qu'on va se rapprocher de l'élection, sur les chances des uns et des autres, les programmes des uns et des autres, c'est pas qu'une histoire de... c'est pas au PMU, quoi. C'est pas des paris, mais les programmes des uns et des autres, les techs, les prises de position des uns et des autres, c'est ce qui nous intéresse. Alors là, par exemple, il y a pas mal de papiers sur Édouard Philippe en ce moment, parce qu'il y a un sondage qui vient de Pop qui dit que le seul en cap... C'est un sondage, hein. Ça ne vaut que ça. Le seul, aujourd'hui, selon cette étude, en capacité de battre un candidat RN deuxième tour, ce serait Édouard Philippe. Donc on va se pencher là-dessus. Avec un article qui se demande si... Oui, il est haut, mais est-ce qu'il n'est pas trop haut, trop tôt? On dit parfois qu'une campagne présidentielle, ça se joue dans les derniers mois. Édouard Philippe, trop haut, trop tôt, donné dans un récent sondage comme le seul à pouvoir battre le RN, l'ex-premier ministre fait figure de favori au centre et à droite, un statut qui avait porté malheur à son mentor Alain Juppé. Lisons. D'ailleurs, David Lisnard, maire de Cannes, a annoncé aux 20h de France 2 sa candidature au présidentiel. Bon, MMG, tu m'excuseras, ça m'empêchera pas de dormir. On va dire que c'est pas une énorme surprise. Je crois même qu'il vient de quitter LR, non? Le maire de Cannes vient de se présenter aux 20h de France 2. Alors, zéro surprise, les gars. Là, franchement, vous réveillez pas pour ça. Je crois qu'il vient de quitter LR, justement, parce que le monsieur a quelques ambitions, quoi. Donc, calmez-vous. Le jour où David Lisnard a une chance d'être élu président de la République, je vous en parlerai un petit peu. Pour l'instant, je fais l'impasse. Quoi. Gilles, qui dit ça? On a un problème, Juppé est trop tôt, automne 2015, donc on revient dans l'histoire, ok? Gilles Boyer, directeur de la campagne d'Alain Juppé pour la primaire de la droite, reçoit cette alerte d'un soutien politique et commentateur, prédit déjà un avenir présidentiel à Juppé, là on revient un petit peu en arrière. L'ancien Premier ministre qui est alors le grand favori des sondages. C'est pour ça qu'il faut être toujours prudent avec les sondages. Un an plus tard, il essuiera un échec cuisant au profit de François Fillon et ne pourra même pas briguer l'Élysée. La petite phrase a tellement marqué au fer rouge le désormais eurodéputé Horizon, donc Édouard Philippe, qu'elle est inscrite en grosses lettres tout aussi rouges sur le bandeau de son livre « Rase campagne ». Printemps 2026, Gilles Boyer soutient un autre favori, son ami également juppéiste Édouard Philippe, dans le sondage, le voilà le sondage. Dans le sondage Elab du 28 mars, pour la tribune dimanche, le maire du Havre fraîchement réélu, heureusement parce qu'il avait dit que s'il n'était pas réélu, il ne se présentait pas à la présidentielle, s'impose comme le seul candidat du centre et de la droite à pouvoir se qualifier au second tour de la présidentielle. Et même à pouvoir le remporter face à Jordan Bardella, 51,5% contre 48,5%. A priori, dans ce sondage, Marine Le Pen n'est pas testée. Elle sera bien sûr à nouveau testée si la justice estime qu'elle est éligible. On attend ça, je crois, cet été. Je crois que ça va tomber cet été. L'histoire, dit-on, ne se répète pas, elle bégaye. Et si c'était vrai? La comparaison n'est pas tout à fait valable, rétorque Gilles Boyer. Alain Juppé était candidat à une primaire. Juin? T'es sûr que c'est juin? C'est peut-être juin, même j'ai dit une bêtise. Peut-être une bêtise. Bon, le plus tôt possible, là, ce sera bien, hein. La comparaison n'est pas valable. Alain Juppé était candidat à une primaire où il n'apparaissait pas toujours comme le centre de gravité de l'électorat de droite. Édouard Philippe, lui, est candidat à la présidentielle. Le 7 juillet, merci. C'est plutôt ce que j'avais vu, moi. Ouais, juillet, tout à fait. Et c'est radicalement différent en termes de stratégie et de positionnement politique. Au jeu des 7 différences, en voici une, les autres s'avèrent moins aisées. Comme Alain Juppé à Bordeaux, Édouard Philippe revendique un fort ancrage local, lui au Havre. De ville de laboratoire, comme son mentor également, il cultive l'art du secret, assume la rareté de sa parole. Dans le documentaire Juppé le ressuscité, Fogg, Franz Olivier Gisbert, recueille cette confidence du chouchou des Français, peu enclin à commenter les soubresauts de l'actualité. C'est une faiblesse car parfois il faut être rapide et occuper le terrain, reconnaît-il. 10 ans plus tard, le Bloc central émet les mêmes critiques vis-à-vis d'Édouard Philippe, qui cet hiver a passé quelques longs jours avant de commenter la situation au Venezuela, par exemple, qui n'a pas souhaité non plus réagir à l'affaire Quentin de Ranque, qui a pourtant agité la classe politique. Mais peut-être que les Français apprécient le sang-froid et le calme, espérait Alain Juppé. Son fidèle, donc Philippe, a utilisé exactement les mêmes mots lors de son interview sur France 2 le 24 mars. Quand tu veux l'Élysée, il faut être sur toutes les balles et mettre du charbon dans la machine. Philippe s'y refuse quand Attal le fait, constate un proche d'Emmanuel Macron. C'est une histoire de stratégie, quoi. Salut Caramol. Surpris par la non-campagne de l'ancien Premier ministre. Édouard Philippe avait posé une option sur la date du 12 avril afin de tenir un meeting. Finalement, le meeting a été reporté. Il avait promis de commencer à dérouler une partie de son programme massif après les municipales. Cela attendra également quelques mois même. Voilà. Donc, manifestement, il y a l'intention pour Édouard Philippe de ne pas partir trop tôt et de ne pas peut-être s'essouffler. Voilà. Il n'y a pas d'urgence pour la suite, freine des quatre fers l'un de ses proches. Alors qu'au contraire, son probable futur rival, Gabriel Attal, il faudra qu'on en parle aussi à un moment, va accélérer avec un livre et des réunions publiques à foison. Retour en 2016, donc Juppé, dans son livre Gilles Boyer s'interroge a posteriori sur les raisons de l'échec de Juppé à l'époque. Avons-nous été tétanisés par la position de favori qui nous a fait souhaiter que rien ne change au point de ne rien changer nous-mêmes? Qu'aurions-nous dû faire pour tuer le match? Aujourd'hui, l'entourage d'Édouard Philippe annonce qu'il reprendra mi-avril ses déplacements aux quatre coins de la France. Je vous lis. Oh, ça discute un peu de Villepin dans le chat. Je suis bien sûr à Villepin avec beaucoup d'intérêt. Le jour où je vous trouverai des articles et ou des enquêtes d'opinion, des sondages qui disent que quelque chose se passe autour de la candidature de Villepin, que ça commence à ancrer, que ça frétille, je vous lirai des trucs. Pour l'instant, c'est pas tout à fait le cas, on est au tout début, quoi. Hein? Si c'est le cas, je vous en parlerai bien sûr. Les villepinistes, là. Je vous vois, hein. Donc voilà pour Édouard Philippe. Et d'ailleurs, il y a un autre truc sur Édouard Philippe dans le Figaro sur son programme en matière d'immigration. Son programme ou son non-programme, d'ailleurs, on va lire ça dans un instant. Il n'a pas annoncé officiellement si. Je crois que oui, là, quand même, non? Non, toujours pas. C'est toujours pas. Si, c'est non, non, parce que c'est. Toujours pas, il n'est pas sorti du bois, il n'y a pas eu une réunion publique là. J'ai reçu des mails. Ouais, ça testouille, ça testouille. C'est ça? Ça testouille un petit peu. Ouais. Mediapart, un an de la présidentielle, Dominique de Villepin s'offre un meeting test à la Sorbonne. On a vu ça, c'était en live sur Twitch. L'ancien Premier ministre a déroulé vendredi soir un discours en forme de programme présidentiel devant les. Voilà, programme. Un discours en forme de programme présidentiel. Et de Villepin. Il y a Monsieur Bidodams qui vient d'écrire dans le chat et de Villepin. Nous sommes littéralement en train d'écrire, de lire un article sur Villepin. C'est-à-dire que tu nous écris avec une PS1. Donc, est-ce que sa candidature est officielle? Je ne crois pas. Voilà. Attends, je vais faire un autre crible où j'ai raté une info. Non, c'est ça. Voilà. Présidentiel, Villepin entretient le suspense. Voilà. Donc, hein. Bon, quand il sera candidat, Édouard Philippe est candidat, par exemple. Quand il sera candidat et qu'il se passe quelque chose, je vous en parlerai. Salut Corentin, magnétiseur. Alors, d'ici à 2027, il va se passer sur cette chaîne, on va se régaler. Hein. En vrai, c'est des sujets essentiels pour l'avenir de notre pays, quoi. Et donc, on va se pencher sur tout ça avec gourmandise, avec beaucoup d'intérêt, les ambitions des uns et des autres, les programmes des uns et des autres, des promesses des uns et des autres, les philosophies des uns et des autres, et des unes aussi. Sauf si moi j'y vais, si je me présente au final en 2027, ben on va surtout s'intéresser à moi et au programme qu'on construira ensemble. Mais comme cette décision n'est pas prise à ce jour, on va se pencher surtout sur les autres pour commencer. Peut-être que ça nous donnera des idées d'ailleurs. Point d'exclamation 2027 dans le chat, mais MMG, tout à fait, tu as raison, et vous avez disons l'essentiel de la philosophie de mon éventuelle candidature. Mais là, je m'occupe de ma formation sur Valorant. Point d'exclamation formation, on ne peut pas tout faire en même temps. Ce qui permettra à Charles, à l'oncle, de dire: Mais vous voyez, je disais pas que des conneries. C'est un militant. Pas que des conneries, Charles, beaucoup quand même. Beaucoup. Pardon, je reviens à mon propos. Donc, on va se pencher sur les programmes, et notamment, on a des infos là sur ce qui serait le programme en matière d'immigration d'Édouard Philippe. Présidentiel, Édouard Philippe assume son en même temps sur l'immigration. Le candidat d'Horizon, concurrencé par Attal et Retailleau, tient l'immigration de travail, mais veut limiter le regroupement familial. Lisons, c'est un gros article, mais ça me semble important. D'ailleurs, c'est avec ce type d'article qu'on construira notre programme, nous, parce que ce qu'on fera, si on lance cette histoire un peu what the fuck de campagne, de candidature, eh ben, on construira un programme et on fera l'actu le matin, et je sais pas, l'après-midi ou le soir, par exemple, on fera des grands lives où on se dira: Allez, les gars, qu'est-ce qu'on fait sur ce sujet? Ce serait fascinant en vrai. Hein? On co-construira ce programme et à minima, ça nous fera réfléchir à tout ça, quoi. Donc, par exemple, on pourrait imaginer une série de streams sur la question de l'immigration. Ça va pas du tout être chaud, hein. Ça va pas être tendu du tout, hein. Lisons déjà celui d'Edouard Philippe. Samedi, depuis l'hôtel de ville en béton armé, Edouard Philippe, oui, Le Havre, c'est une ville qui a été, rayée, enfin, qui a été détruite quasiment à 100% par la. Lors de la Seconde Guerre mondiale, quoi, donc d'où le béton armé, je suppose, de l'hôtel de ville. Il a pris la parole devant les élus. Un mot sur les défis considérables pour sa ville. Bon, blablabla, blablabla, ok, d'accord, blablabla, 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 on s'en fout, ça, vous savez tout ça, c'est pas ça qui nous intéresse, on veut partir, ça veut parler de l'immigration. Blablabla, blablabla, voilà. Cela n'empêche pas de mûrir son projet présidentiel depuis le siège parisien de son parti, avenue d'Iéna. Voilà. Donc il a un, tu vois, il a son parti, le siège, l'état-major, c'est chaud quoi. Et il compte décliner progressivement ses annonces sur l'école, sur la santé, sur les retraites, sur la justice. Moi, ça m'intéresse. Moi, j'ai envie de savoir ce que tous les candidats à la présidentielle vont nous proposer dans les prochains mois. Moi, ça m'intéresse. Face à un RN crédité de plus de 30% d'intention de vote dès le premier tour, qu'il soit représenté par Marine Le Pen ou Bardella, le quinquagénaire sait que son plan sur l'immigration sera débattu. Aucune révolution n'est à attendre en matière d'immigration de travail. Par exemple, soucieux du maintien du modèle économique et social du pays, Philippe, Édouard Philippe, souhaite toujours accueillir une immigration de travail, choisie et contrôlée selon ses mots. Il ne fait pas sienne, par exemple, la formule de Bruno Retailleau, pour qui l'immigration n'est pas une chance pour la France. Édouard Philippe ne s'aligne pas sur cette position. Il n'appelle pas non plus à suspendre les entrées régulières pendant 2 ou 3 ans. Vous avez quelqu'un comme Gérald Darmanin, l'actuel ministre de la Justice, qui dit qu'il faut suspendre les entrées pendant 2 ou 3 ans. Il faut assumer, dit Édouard Philippe, qu'on a besoin d'une immigration parce qu'on a une population active qui se contracte. Et prenant l'exemple de l'Italie où Giorgia Meloni, la présidente du Conseil, a délivré 500 000 nouveaux visas. Cette politique de la présidence nationaliste du Conseil italien en 2023 serait donc la preuve qu'un discours anti-immigration ne résiste pas à la réalité des faits. C'est l'argument d'Édouard Philippe. Dans son dernier prix, le prix de livre, pardon, le prix de nos mensonges, il pointe à la fois les démagogues obsessionnels et angoissés du grand remplacement. Il pointe à la fois les démagogues obsessionnels et angoissés du grand remplacement, ça le mérite d'être clair, et les démagogues clientélistes qui font mine de penser que toute immigration est bonne à prendre. En matière d'immigration légale, ce sont les largesses du regroupement familial auquel Édouard Philippe veut s'attaquer quitte à remettre en cause le passage de la Convention européenne des droits de l'homme qui consacre le droit au respect de la vie privée et familiale. On ne va pas sortir de la CEDH, dit-il, ce serait envoyer un très mauvais signal, mais on doit pouvoir lui faire accepter qu'on a une réserve d'interprétation sur l'article 8 et qu'on accepte le rapport de force, dit-il. Donc, lui, il veut s'attaquer au regroupement familial, en tout cas ce qu'il décrit comme les largesses du regroupement familial. On peut aussi modifier la Constitution pour dire voilà comment on interprète l'article 8, on a une interprétation différente et on l'assume. Moins radical, un protocole signé par plusieurs États pourrait suffire, ont analysé les équipes d'Horizon. Quelques 35 000 premiers visas membres de famille ont été délivrés en 2025 sur environ 384 000 de titres de séjour octroyés, selon les estimations du ministère de l'Intérieur. Donc ça, c'est pour le groupement familial. Pour les OQTF, face aux difficultés à expulser les étrangers sous OQTF, obligation de quitter le territoire, on a un problème de puissance, estime Édouard Philippe. Si on veut faire fonctionner ces instruments, il faut qu'on soit plus puissant et qu'on fasse marcher le rapport de force, comprenez, avec les pays qui m'écrit. Oh, c'est mon petit frère. C'est prioritaire. Oh. C'est mon petit frère qui m'envoie des photos de la famille. Trop chou. Trop chou. Pardon. Donc, quand il parle de rapport de force, il dit avec les pays qui refusent qu'on leur renvoie des ressortissants, quoi. Si on, voilà, l'accord franco-algérien de 68 reste dans son viseur, vous connaissez l'histoire, objet d'un vif bras de fer l'an dernier, en vain entre le régime algérien et Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur à l'époque, ce texte donne aux Algériens des droits et des facilités uniques en France. La relation avec l'Algérie est tendue, il n'y a aucune raison de laisser perdurer un état du droit qui laisserait penser qu'on a une relation particulière avec l'Algérie, estime Édouard Philippe. Donc c'est un bon gros programme de droite comme on a vu des dizaines. Oui, Valou Leroux, Édouard Philippe n'est pas de gauche. Oui. Tu t'attendais à quoi, Valou, tu es surpris ou comment ça se passe? Il a été au pouvoir, Édouard Philippe, pas non plus. C'est pas un trotskiste, quoi, je veux dire. Avec ses propositions, Édouard Philippe espère mettre sous l'été noir les accusations de tempérance agitées sur sa droite. Notamment cette phrase récurrente au siège des Républicains, Philippe, c'est Juppé. Alors certains le critiquent, hein, notamment à droite, c'est le flou, le fond comme sur la forme. Voilà. Un autre proche de Retailleau, juste surprenant qu'un candidat qui espère réunir la droite et le centre fasse son premier JT sans prononcer une seule fois le mot immigration. Et sans évoquer les désordres provoqués par les candidats de LFI. Bon. Notons que certains partis, certains hommes politiques estiment que l'origine de tous les maux de notre pays, c'est l'immigration. Bon. Certains ne sont pas d'accord avec ce constat. Côté Retailleau, manifestement, on estime qu'on devrait parler d'immigration à chaque fois qu'on est interviewé. Ma détermination, c'est que n'est pas simplement de faire des grands gestes, des grands moulinets avec les bras pour essayer d'être élu président de la République, dit Édouard Philippe, c'était justement sur France 2, c'est de dire très exactement, en toute vérité, ce que je crois nécessaire pour le pays. Son état-major réfléchit à la manière de mettre en scène une consultation des Français en vue de la campagne présidentielle à la manière de la grande marche d'Emmanuel Macron 2017. Petite consultation. Voilà. En attendant, les philippistes, donc voilà, moi je découvre le mot des partisans d'Édouard Philippe, les philippistes veulent capitaliser sur l'appel à une candidature unique lancée par 90 personnalités de droite et du centre dans la tribune dimanche. En gros, ses proches ont dit « Ouais, c'est celui-là qu'on veut, quoi. Bah, » ok. Voilà où on en est. Il n'y a pas mille infos, mais voilà. Je pense que, en fait, d'ici, dans les prochains mois, on va prendre des infos comme ça sur les stratégies des uns et des autres, et des unes et des autres, et les programmes, et voilà, c'est ça qu'on va faire. Avec, moi, je crois pas à la neutralité, vous savez, mais avec un maximum de distance, quoi. Hein, il s'agit pas de... C'est un stream d'infos, c'est pas un stream militant. Moi. Vous votez pour qui vous voulez. L'important, c'est de pouvoir en parler ensemble, quoi, essayer de s'informer de façon un petit peu rigoureuse, quoi. Évidemment, tout ça sera bouleversé si je me présente. Avec votre appui. Présente-toi Samuel par pitié. Oh, ouais, mais qu'est-ce que devient ma chaîne après? Pff, quel enfer. Ce serait drôle, bien sûr que ça vous ferait marrer, bien sûr que ça nous occuperait, ça nous ferait des lives. Bien sûr, mais après, pff, du coup, ça devient une chaîne militante. Si je me lance en politique, parce que c'est ça dont on parle. Cette chaîne doit-elle devenir militante? Non. Enfin, pff, débat, quoi. Alors oui, le shitstorm sous les réseaux, mais ça, j'ai l'habitude. Ça, on s'en fout, ça. Mais non, c'est plutôt ça. C'est après, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait ici après? C'est plus de l'actu qu'on fait ici, du coup. Hein? Ce serait plus de l'actu. C'est autre chose. En fait, c'est un bouleversement. De tout ce que je fais, quoi. Mais non, t'as qu'à dire que tu te présentes sans programme, de manière neutre et non partisane. Ce serait tellement drôle en vrai, ça. Il y a tellement des gens qui croient à ce concept qui n'a aucun sens. Ce serait quoi le nom du parti? Les Samuelos. Et vous seriez des Samuelistes, exactement. Et c'est ça, après je fais quoi moi? Vous voyez, c'est ça. Hein. Pff, là le boulot quoi. Et mes enfants, hein, les pauvres. L'Élysée, à mon avis, c'est même pas très bien chauffé, hein, je pense. Hein. Et ma formation sur Valorant, pour l'exclamation formation. Eh oui. Le PS, Parti Samueliste, t'es sûr? Ça coûte cher de faire une campagne? Bon, non, mais non, on fera une campagne sur les réseaux, nous. Campagne numérique. Campagne, pardon. Digitale. Campagne numérique. Non, non, bon, TikTok, Insta, YouTube, Twitch. On enverra des fax. Mais on n'ira pas faire des meetings et des trucs chers. Hein. Ça, c'est pour les darons, ça. Mais en fait, je suis assez fada pour le faire, moi. Mais après, il faut que je pense à la suite, moi. Ah bah oui, quel enfer. T'as pas des contacts en Libye, sinon? Arrête, Faye, arrête, bordel. Ils sont fada, ils sont fada. Ok, on enchaîne. Parlons de l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans dans le viseur du Sénat. Peut-être qu'à l'heure où nous parlons, ça y est, le Sénat a voté, il devait voter aujourd'hui. On va voir un papier sur deux personnes dans la Croix qui disent oui, il faut interdire les réseaux sociaux en France aux moins de 15 ans, hein, comme c'est de plus en plus le cas dans d'autres pays du monde. Justement, on se penchera sur ce qui se passe dans d'autres pays du monde en la matière. Ça a été voté, MG, ça y est, c'est tombé. Let's go! Le Sénat a voté, me dit Sugar, mais il y a des divergences avec les versions du gouvernement. Eh bien, c'est exactement ce que craignaient ces deux personnes que vous voyez dans cet article, c'était que le texte soit voté au Sénat. Je vous rappelle que quelqu'un dans le chat tout à l'heure, il y a une heure, nous a dit le Sénat a dit non. Mais vérifiez vos infos. Donc a priori, il semblerait que le Sénat a voté le texte, mais dans une version qui n'était pas celle de l'Assemblée. C'est justement ce que redoutaient ces deux personnes. Voilà. Donc allons voir. Allons voir. Sénat. Je tape. Non, pas Ségolène Royal. 7 minutes. Je vois que Frontière a fait un article. Peut-être qu'on va aller chercher des sources de qualité. Vous m'excuserez. La croix. Mieux ça déjà. Alors, pardon pour le blanc, hein, pour les petites yeux. Pardon, c'est un peu le soir. Réseaux sociaux, le Sénat adopte l'interdiction moins de 15 ans avec des conditions, sachant que l'Assemblée a déjà voté. Lisons. Le Sénat donc adopté mardi, c'est aujourd'hui. Priorité à l'actu ici. Hein. une proposition de loi interdisant les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Maintenant, on va rentrer dans le détail. Mais avec un système à deux vitesses qui diverge, le premier qui diverge dans le chat, ça va chier, de la position d'Emmanuel Macron. La ministre Anne Le Hénanf. Le Hénanf ? Il y a vraiment une ministre qui s'appelle comme ça ? Vraiment ? Je vous ai vu, hein, tous ceux qui divergent là. Ah oui, là, Anne Le Hénanf, merde. Ok. Merde. Ok. Ça a tellement changé les ministres ces derniers temps. Donc, on en est où là ? Pop. Non, pas comme le pâté, c'est. Non, Hénaf, vous comprenez ? Vous confondez. La ministre Anne Le Hénanf annonce une saisine de la Commission européenne d'ici la fin de la semaine. Le Sénat a donc voté aujourd'hui pour interdire les réseaux sociaux. Ah ah, vous pourrez dire ce soir, si vous sortez ce soir, hein, imaginons une petite discussion au café ou même en boîte, tu vois, ou au petit matin, tu vois. Dis-nous, t'as vu, le Sénat a voté l'interdiction des réseaux sociaux moins de 15 ans. Ça fera de vous quelqu'un d'informé, potentiellement quelqu'un d'intéressant même, vous voyez. Et oui, je vous donne des clés aussi pour briller en société, moi. Peut-être même pour trouver l'amour. Peut-être que grâce à moi, vous allez trouver l'amour ce soir et vous ne le savez pas encore. Hein, vous m'enverrez une photo. Hein. Pas ce soir, mais. Mariage, les enfants, tout ça. Hein. Je vais enfin pouvoir pécho, me dit Sugar. Je suis aussi coach en amour. Donc, le Sénat a voté aujourd'hui pour interdire les réseaux sociaux aux moins de moins de 15 ans, sous certaines conditions, montrant néanmoins des divergences juridiques avec le gouvernement et le président Macron qui a fait cette réforme une promesse de fin de quinquennat. Après l'Assemblée, le texte avait été voté fin janvier, les sénateurs ont adopté très largement une proposition de loi macroniste qui ferait de la France un des premiers pays à instaurer une majorité numérique de ce type. Attention, le processus parlementaire, nous rappelle Lacroix, est loin d'être achevé car un désaccord persiste entre le gouvernement qui prône une interdiction large et le Sénat qui a opté pour une autre rédaction. C'est exactement ce que redoutaient les deux personnes qu'on va lire dans un instant dans Lacroix. La Chambre haute, ça c'est le Sénat, qui craint une atteinte disproportionnée aux libertés fondamentales si l'interdiction était absolue. Non, faut pas, même les moins de 15 ans pour les protéger, et ma liberté, tout ça, vous connaissez. A préféré un système à deux vitesses, distinguant deux types de plateformes. Et là, ça pose un problème, par rapport à l'Europe, vous verrez. Ceux qui nuisent à l'épanouissement physique, mental ou moral de l'enfant devront figurer sur une liste définie par arrêté ministériel et serait interdite au moins de 15 ans, avec une vérification de l'âge. Pour toutes les autres plateformes, l'accord préalable d'au moins un parent sera nécessaire avant que l'enfant y ait accès. Donc il y aurait deux listes. Les non, ça et ça, vous n'avez pas le droit d'y aller, les jeunes, et ça, ok, mais avec autorisation des parents. Le gouvernement juge ce texte, cette rédaction-là, des sénateurs, incompatible. Ah putain, j'ai pas actualisé, bordel, le sommaire, vous me dites rien. N'oubliez pas que le streamer a un certain âge ici. Eh oui ! N'oubliez pas que le streamer a un certain âge ici. Donc le gouvernement juge cette rédaction, ce texte incompatible avec le droit européen et va saisir la Commission européenne d'ici la fin de la semaine, a annoncé la ministre du numérique Anne Le Hénanf. Le premier qui dit on n'est pas dans le pâté. Ça va chier. Celle-ci fera des recommandations dans un délai d'environ 3 mois, selon elle. Voilà. Et ensuite, députés et sénateurs vont se réunir en CMP, en commission mixte paritaire, pour s'accorder sur un texte commun qui devra alors être soumis au vote des deux chambres. L'exécutif vise une entrée en vigueur au mois de septembre. Ça tombe bien, c'est la rentrée. Promesse relayée de tout son poids par Emmanuel Macron, qui en a fait un cheval de bataille avant la fin de son deuxième quinquennat. Tu m'étonnes. Vous savez que le président Macron est empêché. Hein, il n'a pas de majorité au Parlement, il ne peut plus faire grand-chose. Donc, une petite réforme quand même sur la fin, ça ferait pas de mal. Voilà. Et regardez, c'est là où on est fort ici. Ce qui vient de se passer, c'est exactement ce que redoutaient ces deux personnes interrogées dans Lacroix. L'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans dans le viseur du Sénat. Voilà. La Chambre haute, c'est donc le Sénat. S'apprête. Ce mardi, c'est ce qui vient de se passer, à rendre inapplicable et incompatible avec le droit européen le texte adopté en janvier à l'Assemblée. C'est ce que redoutaient ces deux personnes. Voilà. En gros, ce que vont expliquer ces deux spécialistes-là, c'est ben non, tu sais, ou t'interdis les réseaux sociaux, tous, mais tu peux pas Par rapport au droit européen, tu ne peux pas trier. On va essayer de comprendre. C'est une tribune signée Servane Mouton, neurologue et neurophysiologiste, coprésidente de la commission Enfants et Écrans, et Amine Benyamina, qui est psychiatre, chef du service de psychiatrie et d'addictologie de l'hôpital Paul Brousse, coprésident de la commission Enfants et Écrans. On lit, c'est vachement important, hein? En vrai, protéger nos enfants des cochoncetés, des saloperies d'Internet, moi je suis pour, hein. Il est des moments décisifs où les parlementaires ont entre leurs mains, bien au-delà des considérations partisanes, le sort et le destin de nos concitoyens. Pour la protection des mineurs en ligne, ce moment est venu. Il y a bientôt 2 ans, nous remettions, donc les deux personnes qui ont signé la tribune, notre rapport Enfants et écrans à la recherche du temps perdu au président de la République. Face à la multiplicité des enjeux, nous insistions sur la nécessité d'une approche systémique à travers 29 recommandations qui se voulaient complémentaires, un changement de paradigme requérant une position ferme face à une industrie extrêmement puissante et pour respecter la nouvelle orientation de la Commission européenne. Parmi ces recommandations, il y avait donc l'interdiction des réseaux sociaux en ligne aux mineurs de moins de 15 ans. Pourquoi une telle mesure? Pourquoi une telle mesure? Pour ceux qui ne comprennent pas et qui disent « Ah oui, mais non, faut pas faire ça », mais avec la liberté individuelle, et puis c'est aux parents de faire ça, c'est pas la société. Bon, je connais les arguments. On en a parlé des heures et des heures et des heures. Pourquoi une telle mesure, disent ces deux scientifiques? Les publications scientifiques et rapports s'accumulent, attestant des impacts délétères de l'usage des réseaux sur la santé, en particulier des plus jeunes. Perturbation du sommeil, troubles de la vision, sédentarité, perturbation du développement neurologique, socio-relationnel, altération de la santé mentale, mais aussi cyberharcèlement, cyberpédocriminalité. Après des années d'échanges avec ces plateformes, force est de constater que la protection des mineurs est la cadette de leurs préoccupations. Quoi? Les MAGA ne se soucient comme de leur dernière chemise de la santé mentale des enfants, des mineurs? Oh. Oui, ils n'ont rien à foutre. L'important, c'est de faire de la thunasse. La raison principale est que leur modèle économique est toxique. Basé sur le recueil des données de navigation monétisées à des fins publicitaires, il implique une maximisation de la durée et du nombre de connexions. Voilà. Je dis les MAGA? Oh putain. Oh le lapsus du militant anti-Trump. Je vais encore me faire retoquer par Monsieur Charles à l'oncle. Je voulais dire les GAFAM, bien sûr. Pop, 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 pop. Le lapsus, Samuel Etienne. Vous voyez que vous êtes militant. Vous voyez, hein, que vous critiquez Trump. Pas vous? Vous, non? Vous voudriez. J'échange virtuellement. Vous voudriez, vous, le même en France? C'est ça votre projet? Je m'en fous du lapsus en vrai. J'assume. Donc, la raison principale, c'est que le modèle économique des GAFAM est toxique, basé sur le recueil des données de navigation monétisées à des fins publicitaires. Il implique une maximisation de la durée du nombre de connexions. La conception même de ces plateformes digitales, réseaux sociaux, mais aussi jeux vidéo et partage de vidéos, mobilise des procédés addictogènes. Personne n'apprend rien ici, hein. Activation du système de récompense, aversion à la perte, contournement des capacités d'autorégulation. Quand on voit même comment moi, je suis accro, alors que je suis un sage, que je suis un sage, que je suis une personne âgée, moi. Hein? Alors sur des enfants, hein, sur des cerveaux un peu immatures, de jeunes, tout ça. Hein? Avec une efficacité d'autant plus redoutable que les progrès de l'intelligence artificielle permettent une fine personnalisation des contenus proposés. Cela afin de capter et de retenir captive notre attention en nous laissant l'illusion d'une libre et plaisante navigation. Quand on voit les dégâts que ça nous fait, nous, les réseaux, ça nous, si on fait juste ce constat, nous adultes, je veux dire, bah, essayons de comprendre ce que ça peut faire à des cerveaux de jeunes, quoi, de petits. C'est beaucoup plus fort. Mais alors, cette interdiction ne devrait d'ailleurs pas s'étendre aux moins de 18 ans, voire aux adultes? Moi, président de la République, en France, j'interdis les réseaux d'anciennes blagues. Le choix du seuil de 15 ans repose en France. Pourquoi 15 ans? Pourquoi pas 18? Pourquoi pas 21? Pourquoi pas pour tout le monde? Le choix du seuil de 15 ans, disent nos deux interlocuteurs, repose en France sur plusieurs éléments, dont la vulnérabilité d'autant plus grande que l'utilisateur est jeune, l'alignement sur le règlement général sur la protection des données, le RGPD, et l'acceptabilité sociale au regard des usages actuels. Ces derniers mois, nous avons donc suivi avec attention les travaux autour de la proposition de loi protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des RS, c'est le titre de cette proposition. Le texte présenté par la députée Laure Miller, voté en janvier déjà à l'Assemblée, semblait porter une ambition à la hauteur des enjeux et reposer sur un dispositif juridiquement robuste et pleinement opérationnel. Donc les deux personnes là disent le texte qui a été voté à l'Assemblée fin janvier, c'est OK. Nous étions donc confiants, d'autant que le monde entier semble prendre conscience du danger. Dans le sillage de la France, une dizaine de pays européens travaillent à des lois similaires. Ouais, de la France. Dans le sillage de l'Australie peut-être, qui a fait ça avant nous. Aux États-Unis, cette semaine, Meta et Alphabet, ça je vous en ai parlé aussi, ont été condamnés pour avoir sciemment conçu des plateformes addictives et mises en danger les mineurs. Aux États-Unis, où ils aiment bien un petit peu les procès et le judiciaire et le juridique, là, ça commence à taper contre les GAFAM, là, dans les tribunaux. Il y a des milliers de plaintes en attente. Il se passe des choses. Donc les deux auteurs disent bon, on était optimiste après le texte qui a été voté à l'Assemblée. Nous n'aurions pas dû, ce mardi, le Sénat s'apprête à travers un amendement à vider le texte de sa substance, à voter une loi qui serait inapte à protéger nos enfants. Qu'est-ce qui se passe? D'abord en proposant la création d'une liste de réseaux sociaux interdits, alors que la version initiale s'appuyait sur une interdiction générale, fondée sur des définitions déjà existantes dans le droit. Et ce changement, qui a l'air banal, anodin, est loin de l'être. Au-delà du caractère périlleux consistant à établir une telle liste, qu'est-ce que tu mets? Quel réseau tu dis celui-là non et celui-là oui? Au risque de considérer comme sûr, par exemple, une plateforme qui ne l'est pas ou qui ne l'est plus, et d'avoir sans cesse un temps de retard dans l'identification et l'évaluation de nouveaux acteurs, un tel dispositif serait contraire au règlement européen, rendant le texte tout simplement inapplicable. Voilà. Ensuite, en permettant aux enfants de s'inscrire sur un réseau social avant leurs 15 ans sur autorisation parentale. Puisqu'il y a une partie du texte du Sénat, c'est ça. Une telle dérogation n'est pas une solution, mais un renoncement. C'est ignorer la réalité des familles, les tensions permanentes qui opposent déjà parents et enfants sur ces sujets. Certains, sur ce débat, disent, y compris ici, « Ah, mais c'est pas la société, aux politiques, à l'État de s'occuper de ça. C'est une responsabilité familiale. » Moi, je dis... Non, c'est une responsabilité globale. Sur des sujets aussi importants, la famille doit pouvoir jouer son rôle, l'école doit pouvoir jouer son rôle, la société dans son ensemble doit jouer son rôle, et une société qui vote un texte qui dit aux familles « Oui, les réseaux sociaux, pour les moins de 15 ans, c'est dangereux, c'est pas bon », eh ben, vous donnez des arguments, de la matière, de l'autorité aux gens qui sont en capacité de faire respecter ça, par exemple à l'école ou à la maison. Vous aidez les parents dans ce combat. Avec ce texte qui est symbolique. Vous n'allez pas mettre un policier dans chaque foyer pour vérifier que les enfants n'ont pas accès aux réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Mais vous donnez une légitimité à ce truc, en fait. Et vous aidez les parents à le faire. Voilà. C'est pour ça que moi, je suis pour ce type de loi. Pop, 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 pop. C'est reporté sur les parents, disent les deux auteurs, une responsabilité qui doit incomber aux plateformes. Tous les parents n'ont pas le même temps, hein, ni la même connaissance des risques, nous ne pouvons accepter que le législateur acte dans la loi une inégalité de protection entre les enfants contraire aux valeurs de la République. La version votée par l'Assemblée est compatible avec le droit européen et attendue par les familles. Elle permettra à la France de protéger efficacement ses mineurs dès le 1er septembre. Ne perdons plus de temps, nous en avons déjà perdu suffisamment. Cette loi est une mesure de protection, pas de privation. Elle n'est pas construite contre les jeunes, mais pour les servir, leur rendre ce qu'ils ont de plus précieux, leur temps, leur liberté, leur droit à grandir, à rêver, à imaginer, à créer sans être manipulés. Nos enfants ne sont pas à vendre, ils ne sont pas non plus à prendre. La France a cette semaine l'opportunité d'agir concrètement pour les protéger et réaffirmer que leur intérêt supérieur prime toujours. Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, la laisserez-vous s'envoler? Il se trouve que la version qui vient d'être votée par le Sénat, c'est la version que redoutaient ces deux personnes. Après, dans le système parlementaire français, normalement en cas de mésentente entre l'Assemblée et le Sénat, c'est l'Assemblée qui a le dernier mot. Donc on va voir ce qui va se passer. Moi, vous l'avez compris, je suis plutôt pour cette interdiction aux moins de 15 ans. Voilà. Donc je vais suivre ça avec intérêt. Après, je peux aussi me tromper et peut-être que je changerai d'avis en échangeant avec vous. Mais voilà. Je vous lis. Je vous lis. « Les adultes sont aussi à protéger que la loi s'attaque aux plateformes directement. C'est pas une loi française qui va s'attaquer aux GAFAM, ça marche pas comme ça, c'est impossible. On est des nains pour s'attaquer aux GAFAM au niveau européen déjà, c'est un peu plus intéressant. Alors si tu me dis à moi qu'il serait temps que les États, que les sociétés se mettent en ordre de bataille pour lutter contre les excès des GAFAM et l'absence de régulation, de modération sur certains réseaux, alors là, oui, évidemment, 100%. Mais en plus, pas à la place. Pourquoi un combat annulerait l'autre? Sur quels critères vont-ils se baser pour déterminer quelle plateforme est sûre et un autre non? Bah justement, l'Assemblée, ils veulent pas, ils veulent pas, ils veulent que tous les réseaux sociaux soient interdits aux moins de 15 ans. C'est le principe du texte de l'Assemblée. Sans dire ça c'est ok, ça c'est ok, quoi. Avant 15 ans, il y a autre chose à foutre que passer son temps sur les réseaux en vrai. Alors après, il faudra juste vérifier qu'est-ce qu'ils entendent par réseau, quoi. Est-ce que YouTube c'est un réseau? Est-ce que YouTube Kids c'est un réseau? Est-ce que Twitch c'est un réseau? Est-ce qu'Insta, voilà. Ouais. On verra quoi. Alors oui, le principe, il est facile à affirmer. Après, dans le détail, c'est compliqué. Mais c'est pas parce que c'est compliqué qu'il faut pas faire. Oui. Enfin, tous les sujets dont on parle ici sont des sujets d'une complexité redoutable. Si à chaque fois l'argument c'est ah bah non, bah, c'est compliqué, c'est très dur, bah, comment on va faire? Et puis le VPN, et puis vous faites plus rien. Voilà. Vous allez prendre des binous avec les potes, et puis on s'intéresse plus à ces sujets. C'est pas parce qu'un sujet est compliqué et qu'une application est compliquée et que ça va prendre du temps et parfois ce sera pas fou. Hein. Évidemment qu'en Australie où l'interdiction a déjà été mise en place, bien sûr que c'est contourné, bien sûr qu'il y a du VPN, bien sûr qu'il y a des jeunes qui n'ont même pas reçu le message de la plateforme alors qu'ils étaient censés le recevoir, qu'ils ont toujours accès à leur réseau social. Mais au moins la société a fait passer un message. Voilà. Et personne en Australie aujourd'hui ne peut dire qu'il n'est pas au courant que, eh bien, en gros, le pays, la société, avec ses représentants politiques, à un moment a voté une loi pour dire, bah, nous, on pense que les réseaux sociaux pour les moins de 15 ans, c'est pas fou. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. C'est un faux débat de dire, ah, mais en fait, c'est inapplicable. Mais non, parce qu'en fait, je vous dis encore une fois, une loi qui est votée, c'est un message que vous envoyez à la société. Et vous donnez de la force aux acteurs de bonne volonté qui vont au quotidien, à l'école, dans les familles, dans les proches de famille, vont pouvoir porter cette parole en discutant avec ces jeunes, ces enfants, ces ados, parce qu'en fait, le meilleur enfant et ado par rapport à ces sujets, c'est un enfant et un ado qui aura compris le sujet et le danger. Je vous lis, hein. Mais j'aime bien parce que ce débat provoque beaucoup de réactions, c'est super intéressant. Les GAFAM ont l'importance qu'on leur a donnée. Oui, mais Hoplaboum, t'as raison. Nous sommes responsables de tout ça. Et moi le premier qui consomme beaucoup les réseaux. Donc à un moment, ces échanges que nous avons, c'est aussi une prise de conscience, quoi. Un jour, on va devenir adulte par rapport à tout ça. On va, je l'espère, un jour, nous collectivement, atteindre une certaine maturité par rapport à notre utilisation des réseaux sociaux. C'est assez récent tout ça. On a une utilisation totalement immature pour beaucoup, à commencer par moi. Excessive, sans intérêt, on y passe beaucoup trop de temps. Et ça a des effets délétères globalement sur la société. Ouais, j'espère qu'un jour, on atteindra collectivement une maturité par rapport à ça. Et on en protégera d'autant mieux les plus jeunes, les plus fragiles. Alors justement, toujours sur le même sujet, ça bouge pas qu'en France, ça bouge dans d'autres pays. C'est un titre du Figaro désormais. Réseaux sociaux, l'interdiction aux ados se répand dans le monde. Après l'Australie et l'Indonésie, la France pourrait adopter une telle loi ce mardi. Bon, vous voyez que c'est un petit peu plus compliqué. D'autres pays européens y travaillent. 3 mois après l'Australie, l'Indonésie a rendu à son tour illégale l'utilisation des réseaux sociaux pour les moins de 16 ans là-bas. Depuis le 28 mars, 70 millions d'enfants sont ainsi tenus éloignés, théoriquement bien sûr, ouais, vous l'avez compris, de TikTok. Alors là, on a la liste. TikTok, Instagram, Snap, YouTube, voilà, Facebook, Threads, X, Bigo Live, vidéo en direct, et Roblox. Voilà, là vous avez la liste par exemple pour l'Indonésie. La ministre indonésienne des communications a prévenu qu'il n'y aurait aucune marge de compromis pour ces entreprises. Les contrevenants s'exposent à une amende, voire à une suspension de leurs services. Si l'Indonésie est le deuxième pays au monde à interdire les réseaux sociaux aux mineurs, après l'Australie, la pression monte dans de nombreux pays. Gouvernements et tribunaux intensifient en effet leur surveillance des géants de la tech, inquiets de leur impact sur la santé mentale des jeunes utilisateurs. Il y a une semaine, je vous en ai parlé ici, Meta a perdu coup sur coup 2 procès au Nouveau-Mexique et en Californie, a été reconnu coupable de négligence dans la conception de services jugés préjudiciables pour les jeunes. Hein ? Même verdict en Californie concernant YouTube. Des décisions qui pourraient faire office de jurisprudence pour de nombreuses affaires similaires. Pour le modèle économique des GAFAM, ça commence un petit peu à stresser. La France pourrait très bientôt rejoindre ce petit groupe. On parle de l'Australie et de l'Indonésie pour l'instant. Adoptée fin janvier à l'Assemblée, une proposition de loi similaire du Parti Renaissance, soutenue par le président et le gouvernement, a été approuvée le 25 mars par les sénateurs de la Commission de Culture dans une version modifiée. Le texte sera soumis ce mardi, on vient d'en parler au Sénat. En Europe, maintenant, le sujet fait son chemin, tant au sein de la classe politique que de l'opinion publique. Au Royaume-Uni, la Chambre des Lords a voté mercredi pour la deuxième fois en faveur d'un amendement que la Chambre basse, à majorité travailliste, ne soutient pas, visant à interdire les réseaux sociaux aux enfants de moins de 16 ans. Donc débat en Grande-Bretagne. Le Premier ministre Keir Starmer n'a pas écarté la possibilité d'une telle interdiction. Le statu quo n'est pas suffisant, dit-il. Nous devons en faire plus pour protéger nos enfants. Se disant très désireux d'en faire davantage concernant les fonctionnalités les plus addictives, il préfère toutefois attendre les conclusions d'une consultation qui doit se terminer le 26 mai avant de décider du type de mesure à adopter. Ah, il me manque un bout de l'article, là, page 26 dans le Figaro. C'est ici, c'est bien fait. La Suisse, via sa ministre de l'Intérieur, s'est également dite ouverte à une éventuelle interdiction des réseaux sociaux aux plus jeunes. Son gouvernement élabore une législation visant à réguler les principales plateformes en ligne. Une telle loi satisfera la grande majorité de la population qui souhaite un renforcement de la protection des enfants et des ados. Selon un sondage, une étude qui révèle que 94% des personnes interrogées estiment que les mineurs devraient être mieux protégés contre les effets néfastes des réseaux sociaux. Donc vous voyez que au niveau de la société, là on est en Suisse, les choses bougent quand même en termes de prise de conscience. 78% considèrent que les grandes entreprises technologiques exercent une influence excessive sur l'opinion publique. Qui va dire le contraire ? Mais le débat ne progresse pas uniquement en Europe. Fin janvier, l'Inde a également évoqué une loi à venir régulant l'accès des mineurs aux écrans en Inde. L'Inde, ça fait du monde. Il est envisageable de mettre en place des mesures limitant l'accès en fonction de l'âge, à l'heure où les plus jeunes sont de plus en plus vulnérables à l'usage compulsif et au contenu violent des réseaux, peut-on lire dans ce document du gouvernement indien. Voilà. Donc voilà, bon, se répand dans le monde, oui, il y a quelques pays qui le font, quoi. Ce serait intéressant. Je vous lis. C'est quoi la protection des enfants, s'il vous plaît ? Le monde est bien souvent un panier de crabes. Olaf Evert, je sais pas, scroll X, scroll Insta, scroll TikTok. Et si tu as des enfants, si tu veux que tes enfants tombent sur ces contenus, dis-le nous. Mais quand tu poses la question de savoir quel est le problème, je pense qu'il suffit de scroller tous ces contenus. Moi personnellement, je veux pas que mes enfants tombent là-dessus. Voilà. En tout cas, je veux que la société envoie ce message qu'ils n'ont rien à faire devant de telles choses, quoi. Nous non plus d'ailleurs, mais bon, ça c'est un autre débat. Déjà qu'on voit des adultes, Sugar a raison, déjà qu'on voit des adultes. Parfois même des élus de la République, parfois même des députés, dont on voit bien que les réseaux sociaux, quelque part, les ont fait vriller un petit peu. Hein, des grandes personnes pourtant. Alors vous imaginez sur les cerveaux immatures d'enfants. Ouais. Voilà pour ce débat. Alors, c'est pas la première fois qu'on l'a, mais par contre, on en parle de plus en plus. Voilà, en France et ailleurs, et je me dis que c'est une bonne chose. Après, évidemment, le diable est dans les détails. Quelle loi exactement? Quelle plateforme interdite exactement? Pourquoi? Je vois dans le chat, mais pourquoi 15 ans? Pourquoi pas 14 ans? Pourquoi pas 16 ans? Qui est concerné? Comment on fait appliquer cette interdiction? Est-ce que c'est pour nous fliquer? Et on veut demander ma carte d'identité? Jamais je mets ta carte d'identité sur Internet? Oui, évidemment. Et évidemment que cette mesure est très compliquée à mettre en application, mais dire qu'il ne faut pas bouger sur ces sujets parce que c'est compliqué à faire, je pense que ce n'est pas une bonne réponse. Alors, sujet suivant, et que j'ai décidé de... Non, que vous m'avez proposé d'ailleurs, de partager avec nos amis de YouTube, parce que je le trouve intéressant, c'est la solitude des jeunes. Voilà, des jeunes, des étudiants, pour être très très précis. Voilà. Bon, il y a la bourse en dessous, on s'en fout, hein, ça n'a rien à voir. Je veux dire bonjour à nos amis de YouTube, attention. Théâtre incoming. Je fais évoluer le sommaire. Toc. C'est parti. 3, 4. Amis de YouTube, bonjour. Vous êtes en live. Enfin, du coup, non, parce que vous regardez en replay, mais dans la soirée Étienne, c'est la revue de presse en ce moment avec nos amis de Twitch. Alors, normalement, c'est le matin, mais là, c'est le soir parce que j'ai une question pour un champion. Et on voulait partager avec vous un article qu'on trouve très intéressant dans Le Parisien sur la solitude croissante des jeunes, précisément ici des étudiants, dans un pays comme la France, parce qu'il se passe quand même quelque chose à ce sujet et on voulait en parler. Le chiffre principal, c'est celui-là. Près de 4 jeunes sur 10 se déclarent se sentir seuls en France. Et ce ressenti tend à s'aggraver ces dernières années. Donc, c'est un phénomène qui prendrait de l'ampleur. En cause, notamment, la précarité. Notamment, hein, pas que la compétition entre élèves ou l'usage des réseaux sociaux. Lisons le papier, il est court, mais je le trouve très intéressant, il pose plein de questions. Adolescente, Chloé a beaucoup regardé les teen movies, les sororités, les matchs de sport universitaires disputés devant des tribunes de spectateurs, les petits films, les petites séries ricains, quoi. Elle en a rêvé depuis son village provençal, et puis en arrivant à Paris, le bac en poche, l'étudiante se doutait qu'elle ne réaliserait pas son fantasme, peut-être trop américain. Mais elle s'attendait à une semaine d'intégration, de quoi faire des rencontres amicales, créer sa nouvelle famille. Monter à Paris, comme on dit depuis les régions, moi-même je suis un petit breton exilé, c'est quelque chose, hein? C'est quelque chose. Voilà. À la place de tout ça, on lui a proposé une demi-journée d'activité sur le temps des cours. Boursière, elle a choisi les cours. Et de sa première année de droit à l'université Paris-Cité, elle a surtout retenu la solitude. Je n'ai pas eu de véritable amitié. Je ne l'ai pas bien vécu, dit-elle. Le matin, je n'avais pas envie de me lever pour aller à la fac, soupire la jeune femme, aujourd'hui en deuxième année de licence. Je ne voulais pas en parler à mes parents parce qu'ils avaient déjà fait un sacrifice financier pour que je puisse étudier ici. Chloé s'est donc retranchée dans les études de 8h à 22h, 7 jours sur 7. Ma vie, c'était les cours et le ménage de mon appartement. Se sentir seul, un sentiment largement partagé au sein de la jeunesse. Chloé n'est pas seule. Peut-être que certains qui écoutent cet article qu'on est en train de lire se reconnaissent dans cette situation. Chez les 15-25 ans, donc c'est plus large que les étudiants même, hein, il concernerait près de 4 personnes sur 10, contre, donc 4 personnes sur 10, 40%, contre 24% en moyenne pour le reste de la population. Sentiment de solitude beaucoup plus fort chez les jeunes. C'est une enquête du Crédoc, quelle est la source de ce chiffre, du Crédoc pour la Fondation de France en 2025, qui le dit. Même enseignement du côté d'une autre étude, Mentalo, coordonnée par l'INSERM, bon, tout ça est relativement sérieux, et l'université Paris-Cité, qui sonde depuis un an quelques 17 000 jeunes âgés de 11 à 24 ans. Ce ressenti tend à s'aggraver ces dernières années avec les effets délétères, les problèmes de santé mentale chez les jeunes qui augmentent. On le voit dans les hospitalisations, voire les études déclaratives, constate une professeure de santé publique à l'université, qui s'appelle Karine Chevreul, qui est directrice de ce projet Mentalo. Est-ce que c'est parce que les jeunes vont mal qu'ils se sentent davantage seuls, ou c'est parce qu'ils se sentent seuls qu'ils vont mal? On ne sait pas. Là, on est une chercheuse. Et donc, plutôt que de dire des bêtises, elle préfère dire, écoutez, on manque d'éléments pour affirmer des choses. Mais ce dont on est sûr, c'est que la solitude est corrélée à une dégradation de l'état de santé mentale. sociologues, psychologues essayent d'expliquer, bien sûr, ça, avec un peu de prudence quand même, hein. Un peu de rigueur scientifique fait pas mal, et mettent en avant plusieurs facteurs, notamment la précarité, plus élevée dans cette classe d'âge. En 2023, 17,5% des 18-29 ans étaient pauvres, selon l'INSEE, contre 15,4% pour l'ensemble de la population. Or, il existe une connexion très forte entre niveau de vie et lien social, car le lien social provoque des dépenses, souligne Sandra Wabian, qui est sociologue et directrice du CREDOC. Comment sympathiser quand on ne peut pas partager un repas à la cafétéria le midi ou s'offrir des consommations si on sort en soirée? Pendant des mois, Chloé, dont nous parlions au début de cet article, a observé avec envie les groupes d'étudiants tandis qu'elle mangeait seule dans les couloirs de la fac. Je dois ramener mes plats, c'est trop cher de manger à l'extérieur, mes parents peuvent me payer uniquement le loyer, ma bourse sert surtout aux courses alimentaires, détaille l'étudiante qui s'est sentie en décalage avec ses camarades. L'arrivée dans l'enseignement supérieur, notamment à l'université avec ses centaines d'élèves par promotion, a toujours été source de vulnérabilité. Nouveau réseau social à construire, on perd ses anciens liens, ses amis, éloignement familial, amical, autant de défis qui demandent un temps d'adaptation, mais ce moment charnière est désormais vécu sous une pression académique forte. L'embouteillage dans les filières, la compétition entre élèves qui l'entraînent n'est pas propice à la création de liens, affirme Camilia, 22 ans, étudiante en master de droit privé à Paris. Tout nous pousse à essayer de se concentrer sur le versant académique de nos études plutôt que sur le réseau qu'on nous dit pourtant développer. À l'association Nightline, association Nightline qui a été une des associations dont a pu profiter le The Event, qui met en relation des étudiants formés pour répondre à leurs pairs, à d'autres étudiants en détresse psychique. Les demandes ont explosé l'an dernier avec des pics au moment des examens. La plateforme d'écoute, donc pour les étudiants, a enregistré plus de 30 000 appels et chats, soit une augmentation de plus de 65% par rapport à 2024, explique le porte-parole de la SOS. Plus d'un appel sur cinq a trait justement à la solitude et à l'isolement. D'autres facteurs liés à l'évolution du mode de vie alimentent ce sentiment de solitude, comme paradoxalement l'usage massif des réseaux sociaux. Hein. Les réseaux sociaux, tu as l'impression d'être connecté au monde et en fait, souvent, tu es connecté avec personne. Quoi. Certes, les interactions se sont multipliées, mais elles sont souvent superficielles et ne permettent pas de satisfaire le besoin fondamental de relations authentiques, développe la psychologue Rebecca Shankland. Elle demande à se substituer partiellement aux relations en face à face. Pardon, elle tend à se substituer partiellement aux vraies relations en face à face. Sandra Wabian avance un autre élément d'explication. Les jeunes se mettent aujourd'hui en couple plus tard qu'avant. Et le couple est une façon évidente de lutter contre la solitude. Le couple constitue un peu la dernière cellule de lien social valorisée dans notre société, fait-elle remarquer. Comment renouer le contact? Il faut oser faire le premier pas, briser la glace, se faire confiance, se dire qu'on est nombreux dans cette situation. Conseille Antoine, qui va mieux aujourd'hui. Chloé, elle a trouvé des oreilles amicales en intégrant des associations étudiantes. C'est très important de connaître les ressources qui existent, d'être vite pris en charge si ce sentiment de solitude pèse trop. Là, on en est un petit peu au conseil pour ceux qui écouterait ce message et qui se retrouverait dans ce portrait de jeune ou d'étudiant ressentant de la solitude. C'est ce que dit Anne-Laure, bénévole à Nightline. Plus on tarde, plus on s'alourdit et il faut agir. Voilà. Si jamais ça aura au moins servi à ça, vous retrouvez dans ce sentiment-là, voilà, ne laissez pas les choses s'installer parce que ça peut évidemment atteindre votre santé mentale au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Je vous lis sur ce sujet. Pourtant, c'est tellement plus dur de se faire de nouvelles relations une fois en vie active, je trouve, dit Dugomi. Oh, ça dépend. Quand ça se passe bien au boulot, tu peux te faire des potes aussi. Hein. Tu vas prendre des coups et tout. Des coups à boire. Hein. Il y a Argan qui dit hello, je sais pas. Je sais que je vis pas ça aujourd'hui, mais on vivait déjà ce genre de choses. J'étais étudiant il y a 10 ans sans mettre forcément de mots dessus. Je vous lis, hein, je suis en train de vous lire, il y a plein de messages intéressants. Pour ceux qui sont aussi dans cette situation, étudiants, avec voilà, ça va pas, il y a effectivement des numéros de téléphone, des assos. Il y a notamment Nightline, l'association dont on vient de parler, que le The Event de Zera et de Dash avait mis en avant, en lumière. je vous lis, je vous lis. Ça dépend, Miss Fuji. S'il y a bien un truc que la vie d'adulte m'a appris, me dit Miss Fuji, c'est que tes collègues ne sont pas tes amis. Ça peut parfois, mais faut pas compter dessus comme une normalité, c'est rare. Ah oui, mais je suis d'accord avec toi. Tes collègues ne sont pas tes amis. Mais dans tes collègues, tu peux te faire des amis. C'est deux choses qui n'ont rien à voir, hein. C'est comme dire que l'entreprise est un endroit d'épanouissement personnel. L'entreprise peut être un endroit d'épanouissement personnel à certaines conditions, dans un certain cadre de travail, ou pas. Oui, on fera d'autres réactions sur la commission, bien sûr. Voilà, en tout cas, je voulais vous lire cet article parce que je me dis que peut-être que certains d'entre vous peuvent être dans cette situation et sachez que ouais, y a les, il faut, vous n'êtes pas seul déjà. Vous n'êtes pas seul. Il y a des oreilles attentives, il y a des assos, il y a des numéros de téléphone et surtout une prise de conscience à faire pour que vous ne subissiez pas ça et que vous preniez compte que cette solitude, elle peut au final vous faire du mal, quoi. Ok? Allez, on finit par deux sujets. Alors deux sujets sur le même article, ce qui arrive assez rarement. Mais bon, il y a deux beaux articles sur cette page 16 du Monde, le Monde qui est sorti cet après-midi. Hop, j'enchaîne avec le premier de ces deux sujets sur les conditions de travail et les salaires des livreurs à vélo. Vous allez me dire, oui, bah on sait, c'est l'enfer. Oui, mais là, c'est chiffré. Haha. Il y a une étude qui donne des chiffres. Et c'est assez lalu quand même. Les livreurs à vélo travaillent 60 3 heures par semaine, donc c'est pas les 35 heures, on est presque au double, pour moins de 1000 euros par mois. Menée auprès de 1000 personnes à Paris et Bordeaux, c'est une étude de Santé Course, et la première à objectiver les liens entre conditions de travail et santé des travailleurs de plateforme. Quelques 90, alors des chiffres, on en a plein, quelques 99% des livreurs de repas à vélo sont des hommes, 99% sont nés à l'étranger, et les deux tiers sont sans titre de séjour et près d'un sur deux a connu au moins une journée sans repas au cours des 12 derniers mois avant d'être interrogé. Voilà quelques-uns des constats de l'étude Santé Course menée par l'INED. L'INED, c'est l'Institut de recherche pour le développement. Pardon, par plusieurs instituts. Il y a l'Institut de recherche pour le développement et par l'INED, l'Institut national d'études démographiques. Ça a l'air assez sérieux. En partenariat avec des acteurs associatifs, dont des collectifs de livreurs et Médecins du Monde. L'enquête a été publiée mardi, donc c'est tout frais. C'est aujourd'hui, c'est la première d'une telle ampleur en France. 1004 livreurs interrogés entre janvier et mai à Bordeaux et à Paris. Le rapport met d'abord en avant la faiblesse du revenu de ces travailleurs. On est sur 1480 euros bruts par mois, 63 heures de travail par semaine, ce sont des moyennes bien sûr. Les trois quarts des répondants déclarent faire appel à un loueur de compte pour travailler. Hein, au prix d'un loyer estimé à 528 euros par mois, puisque ce sont des personnes qui souvent sont en situation irrégulière, et donc pour pouvoir travailler, elles louent un compte à quelqu'un qui, lui, est en situation régulière. Voilà. 528 euros par mois qui partent. Quant aux livreurs détenteurs de leur propre compte, sous le statut de micro-entrepreneur, ils doivent s'acquitter, bien sûr, de 21,2% de cotisation URSSAF. En prenant en compte les frais, équipement, entretien, et soit le loyer, soit les cotisations, un livreur dépense en moyenne 597 euros par mois pour son activité, hein, ce qui donne un revenu net, mensuel, moyen compris, net, entre 840 et 880 euros. Soit un revenu horaire net, légèrement supérieur à 3 euros par heure, alors que le SMIC horaire, lui, est à 9,51 euros. Ce décompte du temps de travail fait néanmoins le choix d'exclure, d'inclure, voilà, c'est la question que je me posais. Ce décompte, là, il inclut le temps d'attente. Le temps d'attente. Hein, entre deux livraisons. Et vous, dans les grandes villes, vous voyez ces livreurs qui attendent. Hein. Mais pendant qu'ils attendent la course, il n'y a pas de loisir. On est d'accord. Hein. Ce n'est pas du temps de repos. Ils sont là sur le trottoir, sur leur vélo. Voilà. Donc, l'étude a choisi de considérer que c'est un temps de travail. Alors que les données transmises par les plateformes ne comptabilisent que les temps de course. Tu m'étonnes qu'on n'arrive pas au même résultat. Hein? Quand vous prenez les chiffres des plateformes, vous dites bah non, non, mais les gens chez nous, ils gagnent bien leur vie. Bah, tu m'étonnes. Les deux entreprises qui concentrent la majorité de l'activité, donc Uber Eats et Deliveroo, pour ne pas les citer, contestent la méthodologie de cette étude ainsi que la part de personnes sans papier citées. Ben, ils ne vont pas dire le contraire non plus, hein. Ouais. Qu'est-ce que dit l'étude? L'étude estime que elle est arrivée à un résultat de les deux tiers des livreurs à vélo sont sans papier, sans titre de séjour. Voilà. Les entreprises, elles ne peuvent pas valider de tels chiffres, évidemment. Voilà, et ça donne, Deliveroo condamne sans réserve la sous-location illicite de compte. Nous avons créé Deliveroo pour offrir des opportunités de revenus flexibles, en aucun cas pour permettre la situation d'exploitation. Imaginez que Deliveroo dise l'inverse. Le scandale. Deliveroo ne condamne pas la sous-location illicite de compte. Nous avons créé Deliveroo pour offrir des opportunités de revenus flexibles, mais qui peut permettre effectivement peut-être à des situations d'exploitation. Bah, évidemment, ils ne peuvent pas, quoi. Donc c'est ce que dit l'entreprise, qui dit mettre fin à une centaine de contrats commerciaux par mois pour des raisons justement de sous-location illicite. Sauf qu'on a bien compris que sans cette main-d'œuvre à bon marché, sans papier, bah, le site économique, enfin le modèle économique, il ne marche pas, quoi. Vous l'avez compris. Ce rapport méconnaît la base même de l'activité de livraison de repas, activité complémentaire, et agit une porte-parole d'Uber Eats. Là, c'est la perspective où, selon ces boîtes, ah mais c'est pas vraiment des emplois, hein, c'est pas vraiment des métiers, c'est juste pour se faire un petit peu d'argent de poche en plus. Donc là, vous nous parlez de gens qui en vivent, ah ouais, mais c'est pas fait pour ça. Ok. Pardon, je vais le dire en termes un petit peu mesurés, mais c'est un peu du foutage de gueule. La preuve, 91% des livreurs interrogés par l'étude affirment qu'elles génèrent l'essentiel de leurs revenus. Uber Eats ajoute que la mise en place d'un revenu minimum par commande de 3 euros a permis aux livreurs de générer 21,50 euros par heure d'activité en 2025. Voilà. Donc on a d'un côté Uber Eats qui dit les revenus c'est 21 euros par heure, et de l'autre l'étude qui dit ben non, en fait en vrai c'est 3. L'étude confirme simplement des hypothèses et remontées de terrain, observe Marwan Al-Kaïs Bousma, qui est économiste à l'INED, et l'objectif aussi des conditions de travail harassantes, puisqu'on n'a pas encore parlé des conditions de travail. 59% des livreurs interrogés ont déjà eu au moins un accident dans le cadre de leur travail, 69% à Paris. La fatigue, les troubles musculo-squelettiques, la nervosité, les symptômes dépressifs, les problèmes de sommeil sont massivement cités. Ces derniers confient aussi un sentiment de peur, peur du contrôle de police. Il a concerné 2 livreurs sur 3 au cours des 12 derniers mois de l'étude. Discrimination, agression de la part des clients et restaurateurs ou des représailles du loueur de compte. Enfin et surtout, ils craignent en permanence d'être déconnectés par la plateforme et de perdre leurs moyens de subsistance. Plus les livreurs sont dépendants économiquement de leur travail de plateforme, plus ils se sentent obligés de suivre aveuglément les consignes de l'algorithme et plus leur santé mentale est dégradée. Un contrôle algorithmique en contradiction d'ailleurs avec le statut juridique de travailleur indépendant. La publication de l'étude intervient alors que la France a jusqu'à la fin 2026 pour transposer une directive européenne visant à réguler le travail de ces plateformes, le travail de plateforme. Le texte prévoit d'instaurer une présomption de salariat pour certains travailleurs. Pour Cathy Fennec, qui est coordinatrice du programme Travailleurs précarisés à Bordeaux pour Médecins du Monde, la transposition de la directive ne peut pas faire l'impasse sur la régularisation. Il faudrait que la sous-location soit admise au même titre que le salariat pour accéder à un titre de séjour. Cette population connaît une accumulation de problématiques. S'ils étaient régularisés, 91% des livreurs déclarent qu'ils cesseraient d'exercer cette activité à temps plein. Donc on voit bien que dans le modèle économique de ces plateformes de livraison, en fait, ils ont besoin de ces personnes sans papier. Je vous lis. Alors on me parle beaucoup en ce moment d'un film qui est l'histoire de Souleymane. Clara en parle dans le chat. Gentil Petit Sushi en parle aussi. Ah, la vie de Souleymane. Super film qui raconte la vie, me dis-tu, d'un homme en situation irrégulière qui vit en sous-louant un compte de livreur. Voilà. Sauf que là, c'est pas de la fiction. Donc là, ben, c'est au législateur de s'emparer de ça, de mettre un cadre, de protéger les personnes qui vivent de cette activité. Après, il y a sûrement des solutions à trouver, quoi. Je me rends compte que j'ai jamais vu de femme livreuse à vélo. Ben, je me rappelle pas effectivement d'avoir vu non plus. Selon l'étude, 99% des gens qui font ça sont des hommes. 99% aussi des étrangers. Et donc la proportion, on disait en situation irrégulière, c'est de l'ordre de... Deux tiers. Voilà. Mais il y a cette question sur cette directive européenne qui devrait être transposée en droit français, qui pourrait peut-être changer un petit peu les choses. De bon ton de rappeler la blague méprisante d'Attal sur le sujet il n'y a pas si longtemps avant d'avoir envie de voter pour lui. Erzounet, j'ai pas la ref. Si je tape Attal et livreur, je trouve. Il y avait une blague. Je l'ai, je crois. Une blague douteuse sur les livreurs? Je crois que je l'ai. J'ai plusieurs articles, j'en ai un dans l'eBay là. J'avais pas vu ça moi. Gabriel Attal renvoyait ses préjugés devient rougeau à la bataille de mots. Le porte-parole du gouvernement s'est affiché à l'occasion d'un concours d'éloquence des armées où il s'est fendu d'une remarque un tantinet cliché sur l'origine d'un livreur dénommé Charles-Henri. Pop, 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 c'est quoi cette histoire? Ah bah il y a une vidéo.
Personnellement, mon héros de l'année, ce n'est pas Elon Musk qui m'annonce que la pelouse sera verte sur Mars. Non, moi ça a été Charles-Henri, 22 ans, qui me livrait mes sushis à 22 heures. Ce sont celles et ceux que je ne connais pas. Parce que j'ai compris que c'était Charles-Henri qui vous livrait vos sushis à 22 heures. Du coup, je voulais savoir où est-ce que vous habitez.
Ah, l'humour parfois change de camp.
Mais les clichés sont toujours dans le même camp. Parce que figurez-vous que j'habite à Marseille. Alors, c'est vrai. Mais là-bas, c'est ça justement. Peut-être qu'à Paris, les Karim, ils sont dans la rue, et à Marseille, ils sont à l'université.
Et ça prouve qu'on peut porter la parole et être quand même jaloux des sushis.
J'ai pas bien compris le... Est-ce que l'article explicite un petit peu? Alors, Libé dit on voit l'idée, à minima maladroite et même gênante. Par contre, c'est vrai que le jeune homme, là, il a de la répartie. Hein. C'est pas récent, bah, vu les masques, non, effectivement. Mais c'est pas parce que c'est pas récent que c'est pas intéressant. Hein. On va pas juger... notamment ceux qui nous gouvernent à l'aune de leurs déclarations des dernières 24 heures. On a le droit de revenir un peu dans le passé. Même si certains partis politiques aimeraient bien qu'on ne se penche pas sur leur passé. Je sais. Après, quelle était l'intention de Gabriel Attal là? Moi, je ne l'ai pas trouvé très clair cette scène, mais peut-être que j'ai pas bien compris. Vous voyez ce que je veux dire? Ça m'a pas semblé. Merci, merci, c'est le repris. Merci beaucoup. Tu régales. Merci pour les 5 abonnements offerts à la commu. Merci, Takeshi Kovacs. Merci beaucoup à tous les deux. Ouais, peut-être plus maladroite que douteuse. Enfin, j'ai pas compris trop l'intention, quoi. Finalement, il fait que pointer du doigt que ce que tu disais dans l'article. Oui, j'ai eu l'impression presque. Tu vois, est-ce que c'était pas l'intention d'Attal? Alors c'était peut-être maladroit, mais est-ce que l'intention d'Attal, c'était pas de dire, mais vous êtes sûr que le livreur s'appelait Charles-Henri? Parce que on vient de voir une étude qui nous disait que 99%, qui a l'air sérieuse, 99% des livreurs en vélo sont étrangers. Donc en fait, il va un peu dans le sens de l'article. Enfin, je défends pas Gabriel Attal, je connais pas ce monsieur, mais. Oui. Donc c'est peut-être maladroit, mais je suis pas sûr que l'intention. Enfin, j'ai pas. Je me trompe peut-être, hein, mais j'ai pas vu de racisme dans cette déclaration, quoi. Je pense qu'il voulait faire de l'humour de là, de naze, juste, mais c'est quand même nul. Oui, ça... Soit on peut avoir un humour... Non, 99%, Blad, on vient de lire l'enquête. Ok. Ce n'est pas une remarque sérieuse et son manque de sérieux crée le malaise. Oui, ok. Ok, ça je peux l'entendre, ouais. Non, c'est pas 99% d'hommes, c'est 99% d'hommes et 99% d'étrangers, les deux tiers en situation irrégulière. Et les gars, on a répété 10 fois les chiffres. Stéphanie, merci beaucoup. À un moment, j'ai cru que c'était Charles-Henri à l'oncle. Alors, j'ai vraiment eu un moment d'absence, parce que du coup, quand vous m'avez dit c'est Charles-Henri, j'ai cru que c'était Charles-Henri à l'oncle qui livrait des sushis à Marseille. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe ? Il ferait mieux de bosser ses auditions. Hein. Mais là, je dis, là où on va, quoi. Hein ? Ça plus de gueule, quoi. C'est devenu ton Némésis, Charles-Henri. Non, Némésis, c'est quelqu'un qui a la capacité de me nuire. En l'occurrence, pas tellement. L'idée, c'est que ça, c'est en train de se renverser, plutôt. Allez, on finit avec l'IA. On finit avec l'IA parce que Le Monde s'est lancé dans une série que je trouve géniale sur ce sujet essentiel. Une série de portraits de... Alors, ils appellent ça les gourous de l'IA. C'est les têtes pensantes, c'est les représentants, c'est les responsables, c'est aussi ceux qui réfléchissent au sujet. C'est une série de 9 épisodes. On n'est qu'au 5e et je trouve ça vraiment intéressant. Je vous mets la scène. Est-ce que je vous ai mis le sommaire ? Oui. Voilà. Et là, on a un nouveau portrait de Demis Hassabis, voilà, qui est le PDG de Google DeepMind, voilà, et qui veut se servir de l'IA pour intensifier les découvertes scientifiques. Voilà. On a entendu des gens qui étaient inquiets, des gens qui étaient optimistes, des gens qui ont dit « c'est ça le danger », d'autres qui disent « ah, ils ne sont pas d'accord ». C'est vachement intéressant. Et si vous pouvez récupérer assez facilement tous ces portraits, je pense... dans Le Monde. Si vous vous intéressez à l'IA, je trouve que c'est plutôt intéressant. Le prix Nobel de chimie 2024, le gars est juste prix Nobel de chimie, Demis Hassabis est un optimiste de l'IA. Mais, optimisme prudent. Comme il le rappelle sans cesse, côté positif, il considère cette technologie comme plus révolutionnaire que le feu ou l'électricité. Alors moi, je me rappelle, je suis un peu plus âgé que vous, je me rappelle de quand qu'on a découvert le feu à mon époque, et l'électricité. Et l'eau dans les foyers, ça vous êtes trop jeune, vous ne pouvez pas connaître. Lui, il dit que c'est plus important encore et qu'elle sera capable de changer cette révolution, les sociétés, 10 fois plus que la révolution industrielle et peut-être 10 fois plus vite. Avec Michel Drucker, oh, Michel n'était pas né à l'époque. C'est un enfant, Michel, par rapport à moi. Avant le feu, vous viviez dans le noir complet ? Bah non, pas quand il faisait jour. Parce qu'on avait le jour quand même. On avait le jour quand même. Ah non. Bah oui, la nuit on se mettait un petit peu en boule entre nous quoi. Et c'est ce qu'il a rappelé au dernier sommet international sur l'IA en Inde en février en précisant qu'il pensait qu'une IA générale serait en action à l'horizon des 5 ans. Il liste des applications dans la santé, développement de nouvelles molécules, l'énergie, notamment comme source la fusion nucléaire, les matériaux pour améliorer les batteries. Il martèle inlassablement que l'IA est un multiplicateur de force pour l'humain et que grâce à l'IA, l'humain sera plus créatif. Bon, c'est son côté optimiste. Et, parce que c'est un optimiste, comment il l'a dit, prudent, il y a aussi un bémol. Et côté bémol, il pense que cette technologie est neutre et dépend des usages qui en seront faits. Il s'inquiète donc d'abord d'éventuels mésusages par des acteurs malveillants. Comment serait-ce possible ? Sa seconde crainte, comme il l'expliquait dans un entretien pour le site du prix Nobel publié en février 2025, est de s'assurer que techniquement, ces systèmes ne s'emballent pas et conserve les valeurs et buts qui leur ont été assignés en les protégeant par des garde-fous robustes. Oh, la société qui ne mettrait pas des garde-fous robustes à une nouvelle technologie ? Quelle inquiétude ! Il appelle souvent à la création d'un centre international de recherche sur ces questions, à la manière du Centre européen pour la recherche nucléaire en Suisse, par exemple, spécialisé en physique des particules. Il est aussi équilibré à propos du marché de l'emploi. Vous savez qu'il y a aussi des inquiétudes sur... les conséquences sur le marché de l'emploi de l'IA. Reprenant au forum de Davos en janvier, le classique, lorsqu'une technologie de rupture arrive, certains métiers sont touchés, mais d'autres, plus riches, sont créés. Pourtant, sa signature s'est retrouvée en 2023 auprès de celle d'acteurs considérés comme les plus pessimistes, les plus pessimistes que lui en tout cas, comme Jeffrey Hinton ou Joshua Bengio, pour un appel déclarant que réduire les risques d'extinction dus à l'IA doit figurer parmi les priorités globales, aux côtés des menaces comme les pandémies ou le risque nucléaire. Appel qui n'a pas eu de conséquences et qui est le dernier attribué au clan des pessimistes qu'il a signé. Il préfère répéter aujourd'hui son credo de scientifique confiant, construit sur sa passion à s'attaquer au mystère de la nature, en premier lieu le cerveau et l'intelligence, prix Nobel de chimie, donc on rappelle. C'est d'ailleurs ce qui l'a conduit à embrasser une carrière scientifique, commencée après plusieurs années à succès dans le développement de jeux vidéo. Quoi ? Attends, le mec est Nobel de chimie ? Et avant, il faisait des jeux vidéo ? Mais c'est qui ce gars ? C'est un dev ! Eh, hey, le jeu vidéo, ils sont forts. Mais il est vraiment Nobel de chimie ? Ah oui, prix Nobel de chimie 2024. C'est incroyable, hein ? Sacré bonhomme. Sa thèse, soutenue en 2009, portait sur la mémoire. Un an plus tard, il fondait DeepMind, qui sera racheté par Google en 2014 avant que le nom ne devienne la principale division de recherche en IA du géant américain. Résoudre l'intelligence était le slogan originel. Les premières techniques mises en œuvre sont inspirées de la biologie, l'apprentissage par renforcement, qui modifie les paramètres d'un modèle par un système de punition-récompense. Cela permet à DeepMind de battre des champions humains au jeu de Go ou encore de jouer à des jeux vidéo et désormais d'aligner les réponses des chatbots sur les préférences humaines de ses concepteurs. Marrant. La volonté d'accélérer les découvertes scientifiques grâce à l'IA et sa marque de fabrique et le distingue des... Bah, après, il a une démarche très scientifique, quoi. Et le distingue des autres mentors du secteur auxquels le monde consacre plein de portraits en ce moment, souvent concentrés à des objectifs plus restreints. Il a ainsi créé une autre start-up, Isomorphic Labs 2021, qui s'appuie sur des outils comme AlphaFold et promet d'accélérer l'exploration de nouveaux candidats médicaments. Il annonce de premiers essais cliniques prochainement depuis plusieurs mois. DeepMind qui s'est aussi attaqué à une autre science, les maths, réussissant durant l'été 2025, donc dernier, à avoir l'équivalent de médaille d'or aux Olympiades, une compétition réservée à de jeunes mathématiciens de moins de 20 ans. Drôle. La science, quoi. Il y a Twitch Moquette qui dit « Je déteste écouter ce genre de bio, c'est comme quand t'écoutes La vie d'acier, t'as l'impression d'être naze. » Je vois très bien ce que tu veux dire. C'est comme hier, on lisait le portrait d'un gars qui vient d'avoir le prix, c'est un Français, du meilleur jeune économiste. Donc le gars est major de Polytechnique. Après, il est allé à Harvard, à Princeton. Enfin, il collectionne les diplômes de fou, comme moi, je collectionne les magnets sur mon frigidaire, quoi. Et je disais, waouh, c'est trop énervant, quoi. Il me dit, mais pourquoi c'est énervant? Bah, parce que le mec est juste brillantissime, quoi. C'est impressionnant, quoi. Ah, y a des gens comme ça. Voilà, Adrien Bilal, bien vu. C'est fou, hein. Ouais. Mais bon, faut tout pour faire un monde. Moi, j'ai choisi l'e-sport. Point d'exclamation, formation. Je lance ma formation Valorant dans quelques jours. Vous avez le clip, là. On est en train de mettre la grille tarifaire. Voilà, pour que l'idée, c'est que tout le monde puisse accéder, on va dire, à un niveau de formation premium sur Valorant. Vous savez, en la matière, il n'y a pas grand-chose. On a constaté avec les gens avec qui je travaille qu'il y avait un flou, il y avait un vide, il y avait une offre qui était insuffisante. Et donc voilà, dans quelques jours, vous avez les grandes lignes, hein, de la formation, mais c'est une formation en 12 heures, garantie ou remboursée pour vous faire arriver au meilleur niveau sur Valo. Je me suis entouré des meilleurs, hein, meilleurs coachs, meilleurs joueurs, vraiment les experts de ce jeu. Voilà, et on a condensé ça, on a inventé une formation en 12 heures. Moi, j'en suis le visage, bien sûr. Vous connaissez ma passion pour ce jeu. Mais je pense que ça peut révolutionner la formation sur Valorant. Voilà. Je vous en dis plus dans les prochains jours. Point d'exclamation. Formation, vous avez le clip. En physique ou en distanciel. Il y a deux formules. Ouais. On a loué des bureaux à la Défense pour ceux qui préfèrent être en présentiel. Voilà. À suivre donc. Merci les amis. Plus qu'une revue de presse le soir, demain soir. Mais après, on reprend le matin. Ça me manque hein, de... merci beaucoup, Murph. Merci, Murph. Je t'apprécie vraiment et c'est pour ça que je me permets de te dire que ça a tous les atours d'un cash grab. Allez voir la vidéo, point d'exclamation formation. Vous avez beaucoup d'infos dans la vidéo. Donc voilà, je vous retrouve bientôt le matin et ça me fait plaisir. Jeudi matin, je vous retrouve. Vendredi matin, hop, vous avez ça. Tac. Le grand décryptage. Là aussi, c'est en présentiel aussi. Mais c'est gratuit à la Cité des Sciences. Point d'exclamation décryptage et vous avez toutes les infos pour venir me voir IRL à la Cité des Sciences dans le cadre du printemps de l'esprit critique. Voilà. Avec une revue de presse sur place, avec des battles de. D'oratoire sur l'esprit critique avec tous les gens qui voudront sur place, on va bien rigoler, arbitré par moi en toute objectivité slash subjectivité, et puis après une table ronde avec des experts sur la question de l'esprit critique, notamment appliquée aux questions de l'argent, en live ici même, en live sur ma chaîne bien sûr, et en IRL à la Cité des Sciences, la régalade. Voilà, merci. Et puis là c'est pas tout parce que je dois enregistrer une petite vidéo maintenant pour le festival MVP qui arrive le 11 avril. Lucie Liberté, c'est quelle heure le matin? En général, c'est 9h, 9h30. Tous les matins, du lundi au vendredi. Et ça reprend jeudi. Voilà. Là, je dois enregistrer une petite vidéo pour les amis du festival MVP, pour l'exclamation festival. J'en ai des choses. Oui, avec notamment Big Flo et Oli qui seront festival MVP. Exactement. Et ouais. 11 avril, vous interrogez sur votre avenir. Vous êtes collégien, lycéen, étudiant, vous travaillez déjà. Vous ne savez pas quoi faire plus tard. Vous avez envie de changer de secteur d'activité, de métier. Un festival. Ouais, il y aura Big Flo et Oli, ouais. Voilà. Un festival, c'est mieux qu'un salon. Il y aura des stands, il y aura des scènes, il y aura du spectacle, il y aura de l'humour, il y aura du rire, il y aura de plein de choses. Et l'idée étant que chacun reparte avec un truc un peu concret. Peut-être même un job, peut-être même une formation. Ça va être la fête. Il y aura Big Flo et Oli. Ouais. Eh ouais. Ah bah oui. Ah oui, quand je fais un festival... Oui, c'est pas une kermesse. Hein. Moi, pour le coup, ça c'est vrai. Pourquoi je dis ça? Tout ce que je dis est vrai. Voilà. Merci Alexandra, tu régales. Allez, on fait un. Faut que je fasse un raid et après, je vais faire ce truc-là. Le festival sera en live aussi. Alors, toute la journée du festival, non, mais il y aura des lives au festival. Il y aura une ou deux émissions MVP en live. Mais. L'expérience de venir sur place, elle ne sera pas en live. C'est gratuit. Viens donc. Alors, qui est en live? Justement, nous, là. Oui. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise encore? Je vais voir tous mes amis, mais ils sont 600... Les gens que je suis trop de gens sur Twitch. Je vais voir les petits, les gros. Il y a trop de gens. Oh ! J'ai tout cassé. C'est quoi ça? Ah ouais. Oh! J'arrête pas de faire oh, puis je vois plein de gens que j'aime bien. Ah ben. On parlait de Valorant et de ma formation. Eh ben, on va aller voir quelqu'un qui joue bien à Valo. Ça me semble pas mal du tout. Allez, let's go, ça fait longtemps. Let's go. Qui on va voir? On va voir Loupiot. On va voir Lou. Weeper, par exemple, il a validé ma formation, par exemple. Allez, on va voir Lou, quelqu'un que j'aime beaucoup. Voilà. Et là, vous avez une bonne joueuse. E-sport, d'ailleurs, sur Valo. C'est parti. Moi, je relance Valo dans pas longtemps, là, parce que c'est bien beau, question pour un champion, mais ça me manque un petit peu. Hein. Ok. Et on lui revend ta formation? Peut-être que Lou pourrait profiter de la formation. Effectivement, pour un petit peu peut-être optimiser tout ça. Comme d'habitude ici, on ferme la caméra. On sait jamais. On sait jamais ce qui se passe. On sait que le streamer est vieux. Parfois, il confond les boutons. Et il se passe des choses. On met l'écran de fin. La caméra est éteinte. Il ne peut rien se passer. Je lance le raid. C'est en train de se charger. Des bisous. Je vous embrasse.